Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 68e Weekly News, votre émission consacrée à l'actu comics et dérivés. Pour m'accompagner ce soir, Mister René Bunny.
Bonsoir à toutes et tous. Bruno n'est pas là, je peux le dire.
Valentin.
Hello les gens.
Et Flo.
Salut les filles.
Cette semaine, nous
quel
allons...
ringardos.
Cette semaine, nous allons parler de ciné avec des dates repoussées, mais aussi des nouveaux logos et des annonces de production pour des séries Marvel. Dans les brèves, nous reviendrons sur les différentes sollicitations chez Marvel et chez DC, ainsi que ce que l'on a pu apprendre à travers diverses interviews de créateurs. Nous terminerons avec une petite partie indé, avec une arrivée de nouveaux numéros zéro pour Valiant, un retour d'une série culte et des tie-ins d'une nouvelle franchise culte elle aussi. En fin d'émission, vous retrouverez le Comics.com avec la réponse au mail que vous nous avez envoyé, ainsi que vos tweets et un point PCE. Je suis Steve et vous écoutez le Weekly News. Comme chaque semaine, nous allons commencer par le What's Up, les dernières geekeries du moment. On va commencer avec toi, Mister René Bonniton, What's Up ?
Alors oui, moi ce week-end j'ai fait un petit tour dans l'espace puisque je suis allé voir Gravity.
Est-ce que tu as été l'espace et tu as mouru ?
Oui, j'ai mouru plusieurs fois même, mais je suis ressuscité à chaque fois comme dans un relaunch. C'était très bizarre. Et oui, donc j'ai fait ce qu'avait fait Bruno il y a de cela une ou deux semaines, je ne sais plus. Donc j'ai vu enfin ce film qui est effectivement une véritable petite expérience, je dirais quasiment vidéoludique. En tout cas, voilà, c'est vraiment un très très bon film. Hormis, alors ça m'a vraiment fait chier. En fait, ça aurait été nickel ce film si justement il n'y avait pas eu tout le pathos, parce qu'il y a énormément de pathos avec donc le personnage interprété par Sandra Bullock et George Clooney. Voilà, c'était pas forcément utile d'enrober ça d'autant de pathos et de faire dans la ah mon Dieu, c'est horrible ce qui nous arrive. Puis je vais te parler de ma vie d'avant sur Terre, tu vas voir, c'était pas joyeux non plus. Enfin voilà, et ça m'a un peu saoulé tout ce côté-là. Donc on a au moins un quart d'heure au fait qui est totalement inutile dans le film, mais par contre sur le 1h15 qui reste, c'est vraiment génial, on en prend plein les yeux, et puis on est vraiment dedans, quoi. Il y a une immersion de ouf dans ce film. C'est rare que j'aille au cinéma et que je ressente ça, c'est vraiment une expérience, et rien que pour ça, j'encourage vraiment tout le monde à le voir absolument très vite au ciné, parce que après, même dans un salon, sur une grande télé, je pense pas que ça ait le même impact et que ce soit aussi bon. Donc voilà.
À tout dépend si tu as la télé au nouveau Darty qui, dans ce centre commercial qui a ouvert, je crois que c'est dans le 15e, si ma mémoire est bonne, qui ont un écran qui fait 2,80 m.
Ouais, mais il faut aussi avoir la place et les voisins.
Et aussi, l'argent, puisqu'il est à 199 000 euros.
Mais... 199 000 euros, mais putain, mais 199 000 euros.
Il y a l'extension de garantie avec ça ou
j'espère quand même ils peuvent te l'offrir.
Qui va s'acheter ça quoi ? Qui va s'acheter ça ? C'est hallucinant. Franchement, j'ai vu des télés récemment à 20 000 euros. Déjà 20 000 euros. Enfin, c'est juste de la folie furieuse. Mais alors là, ça devient ridicule.
Non, mais c'est surtout un prototype. Hein. Pour le moment, il en existe pas beaucoup d'exemplaires. Mais vu qu'il a un prix, ça veut dire qu'il est achetable, logiquement.
Ouais. Ouais.
Donc forcément, enfin voilà, si quelqu'un a de l'argent
ou a gagné
pour
ou
nos futurs locaux, qui veut bien nous l'offrir,
là c'est grotesque. Quoi. Enfin bref.
Donc là, je pense que tu peux revivre l'expérience Gravity chez toi.
Tu peux même revivre l'expérience de, enfin très vite de dormir dans la rue dans un carton, hein, je pense après avoir acheté ça.
On va passer à toi, Valentin, pour ton WhatsApp.
Du Doctor Who avec le préquel avec le préquel de l'épisode anniversaire de Night of the Doctor. Donc on voit la régénération du 8e Docteur en John Hurt et ça permet de réhabiliter le 8e Docteur qui était souvent bâché par les par les Whovian. Donc Steven Moffat a fait un très bon mini épisode et donc j'ai vraiment hâte de voir l'épisode des 50 ans là. Plus que 5 jours et je commence à trembler chez moi. Je me dis, quand j'entends un petit sifflement, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est? Et puis voilà.
Si quelqu'un connaît l'adresse d'un bon addictologue, vous pouvez nous l'envoyer. Parce que là, c'est quand même de l'addiction à ce niveau-là.
Mais non.
Flo, on va passer à toi pour ton WhatsApp.
Oh, moi, c'est rapide. Alors déjà, première note, pourquoi je dis salut les filles au début? C'est parce que a priori, j'ai une voix sexy. C'est ce qu'on me dit sur Twitter. J'ai même un hashtag à mon nom pour que je continue à faire des voix sexy. Et a priori,
oh,
un fan art est en cours.
Oh le mec! Oh
donc, non, mais attendez. Puisque ça devient quand même très énervant, tout cette auto-congratulation, Flo me dit quand même lors de la soirée des GBA: attends, tu trouves pas que je ressemble à Harrison Ford quand même? Attends, puis après,
Ça balance.
Après, il
non,
prend des
poses,
tu sais,
à
Indiana Jones.
C'est toi qui m'as dit que je ressemblais à David Tennant.
Oui, non,
c'est ça. Attends. Après, je t'ai dit que mon traiteur chinois
c'est
m'a
vrai.
Dit... Vous deux semblez... Pardon, je sais pas, ça va être horrible.
Oh, l'accent raciste.
Vas-y, non, mais si, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire.
Il m'a dit que je ressemblais à Harrison Ford.
Non, tu l'as pas dit
comme ça. C'est ridicule. Je ressemble pas du tout à Harrison Ford et je ressemble pas non plus à David Tennant. Peut-être un coup à la webcam ça ressemblait, mais en vrai je ressemble ni à ni l'un ni l'autre. Donc voilà
putain,
les tenants et les
Alain Delon quoi. Tu ressembles à Alain Delon en fait.
Oui,
mais dans
oui,
le comportement.
Oui, tout à fait. J'ai un peu de Jacques Chirac aussi en jeune.
Ouais.
Mon Dieu. Et non voilà. Et puis je suis allé au Golden Blog Awards. Je vais pas réussir à rebondir. Au Golden Blog Awards avec Mr. Honey Bunny et c'était vachement sympa. Voilà, mais ça, vous avez déjà vu les centaines de vidéos qui tournent, les milliards de vues sur YouTube.
On ne dira pas l'autre vidéo d'après.
Oui, non, mais celle-ci, elle a été partagée dans un groupe privé à Comic City.
Voilà.
Et ça, on ne peut pas en parler à l'antenne.
C'était un petit salon privé pour faire plaisir à Steve.
Malheureusement, puisque la décence nous l'interdit, tout ça.
Il y a des animaux qui s'en souviennent, par contre. Mais ils ne peuvent pas le dire. C'est bien.
Il y a des oreilles chastes qui écoutent. Et je ne parle pas de les miennes.
Voilà, donc comment j'ai pu faire un WhatsApp sans WhatsApp, c'est... Voilà, bravo.
Ça s'appelle le talent. Voilà, tout simplement.
Oui, je sais.
Le David talent.
Putain, j'allais la faire, merde. Putain. Roi de la vanne pourrie, quoi.
Mais c'est ça. On est tellement bon qu'on se les pique.
On va démarrer avec le Screen News et on commence par des annonces de dates repoussées chez la Fox, notamment le reboot de Fantastic Four qui a été repoussé à toujours 2015, mais non plus le 6 mars comme il était originalement prévu, mais le 19 juin. En effet, la Fox a plus confiance en cette date et ça lui permettra de s'intercaler entre Avengers 2 et Ant-Man, ce qui nous fera un film Marvel toutes les 6 semaines aux États-Unis pendant la période de l'été. Il va falloir aimer les comics.
Bah après, je pense que, à mon avis, Avengers 2 et Ant-Man vont être bien meilleurs que le reboot de Fantastic Four. Donc, à voir quoi.
Juger que ça va être déjà bien meilleur, enfin je sais pas, on n'a même pas encore d'annonce de casting, on n'a même pas de scénariste attitré, tout ce qu'on sait c'est que c'est Millard qui chapeaute, mais ça va pas forcément dire que ce sera mauvais.
Oui.
Ça y est, t'es foutu, t'as dit le truc qu'il fallait pas dire, Valentin, c'est fini.
Bah après tout, enfin c'est vrai qu'on aurait pu avoir des réserves, surtout quand on voit les deux premiers, mais en même temps quand on a vu les derniers X-Men et qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec First Class, ça peut laisser quand même un petit regain d'espoir sur la qualité de la franchise.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas, tant qu'on n'aura pas vu de premières images et qu'on n'aura pas des annonces de casting à bâcher, puisque oui, on va forcément bâcher les annonces de casting. On peut pas vraiment juger pour le moment.
Bah, Ben Affleck, hein, déjà dans le rôle de Mister Fantastic et de Ant-Man.
Exactement.
Incroyable.
Et on aura Ben Kingsley pour jouer la chose.
Bah, là, par contre, je suis plutôt partant.
Autre film qui est repoussé et qui fait partie du giron Millar, c'est Secret Service, qui devait sortir normalement le 14 novembre 2014. Il est repoussé à mars 2015 et prend donc la place du Fantastic Four, c'est-à-dire le 6 mars 2015. Les chefs à Fox, c'est les chaises musicales. Enfin, le film Assassin's Creed, toujours produit par la Fox, qui devait sortir le 19 juin, est repoussé au 7 août.
Bah, bravo. 2015 va être une grosse année. Une sortie ciné avec Assassin, le nouveau James Bond, Avengers, etc., etc. Je pense que ça va être une très très grosse année ciné.
Sans oublier le Star Wars en fin d'année.
Oui.
Est-ce qu'on a le titre du nouveau James Bond?
Bond à Merci. La plage. Je sais pas. Voilà. J'en ai aucune idée, personnellement.
Très bien. Quelques bons de plus.
Oh putain, non, j'aurais pas dû demander au fait. Ouais, j'aurais pas dû poser la question. Je suis vraiment désolé.
Passons à la franchise Marvel, mais cette fois-ci chez Netflix. On annonçait ça la semaine dernière, c'était la news qui était tombée, c'était la grosse news de la semaine dernière. On a déjà des gens qui commencent à être attachés aux différents projets, pardon, notamment un showrunner ainsi que réalisateur pour Daredevil. Ce sera Drew Goddard. Flo, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce monsieur?
Ben oui, Drew Goddard, donc très bonne nouvelle, je pense, qui sera...
Ne pas confondre avec Jean-Luc, bien sûr.
C'est son frère, pareil. De toute façon, je
qui
crois.
Sera, qui faire. Sera a priori showrunner, donc scénariste de la série. Drew Goddard, on le connaît pour avoir scénarisé Cloverfield, pour avoir scénarisé pas mal d'épisodes de Lost, pour avoir réalisé et scénarisé La Cabine dans les Bois, voilà. Qui a fait du Alias aussi. C'est quand même un mec qui est plutôt aimé des geeks, quand même, qui a une petite réputation quand même des geeks, un peu comme un Damon Lindelof ou un J.J. Abrams, quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, un beau nom quand même attaché au projet, pour un projet Netflix.
Qui a énormément de liens en plus avec Whedon, ce qui fait jouer la fibre sensible, enfin la corde sensible, pardon, sur les gens qui suivent l'univers Marvel. Puisqu'il a énormément scénarisé d'épisodes de Buffy, d'Angel.
Oui, tout à fait,
et puis,
il a fait
La Cabane dans les Bois, effectivement, il a beaucoup de liens avec Whedon, donc ça oui, rassure un peu pour Whedon, tous les fans de l'univers Marvel.
Ouais, bah il amène ses potes, quoi. Non, mais c'est très très bien, on ne l'avait pas encore vu sur des projets Marvel, donc c'est très cool. Donc première nouvelle donc sur la série Daredevil, et deuxième nouvelle sur la série Jessica Jones, donc Alias. Ça sera Melissa Rosenberg qui a travaillé notamment sur la saga Twilight en tant que scénariste. Elle, on ne sait pas si elle sera showrunneuse, en tout cas elle sera scénariste productrice de la série. Jessica Jones.
Voilà, ça donc, bouge définitivement rapidement.
Oui, les choses se mettent pas mal en place. J'ai moins d'affinité avec cette scénariste et je la connais moins en général, donc je n'irai pas la juger.
C'est quelqu'un qui a attaché un projet plus féminin déjà à la base. Twilight, c'est pas du tout du mauvais esprit, du machisme ou quoi que ce soit. Twilight est quand même plus dirigé vers une audience un peu plus féminine. Marche très bien d'ailleurs du côté féminin au niveau des audiences, et donc forcément attacher quelqu'un qui a ce projet sur la seule série avec une héroïne en guise de héros, de personnage principal, pardon, ça paraissait aussi logique.
Oui, alors à préciser aussi qu'elle a écrit pour The OC, Newport Beach, ça c'est moins glorieux.
Ouais, mais pareil, qui est aussi pas mal dirigé vers une audience plus féminine, le soap est
C'est une scripted reality de merde, hein. Mais bon. Enfin bref, c'était il y a longtemps. Mais bon, voilà, à peu près pour sa filmo et ses travaux, quoi. Donc voilà, les choses bougent plutôt vite pour les séries Netflix.
À savoir qu'elle avait déjà été attachée à un projet de Jessica Jones auparavant.
Oui, tout à fait, le projet Alias, aka Jessica Jones, c'est ça, je crois.
Le fameux projet qui était tombé à l'eau d'ABC il y a 3 ans.
Tout à fait. J'ai omis de dire, c'est plutôt important de le dire, effectivement.
Non, mais c'est assez marrant, du coup, elles reviennent sur le projet qui avait été aborté il y a de ça 3 ans, quoi.
Bah, à mon avis, oui, ils vont reprendre un petit peu les bouts de ce qui avait déjà été fait, quoi.
Mm. Benny, tu allais dire ?
J'allais dire, aucun rapport avec Nabila, parce que tu as dit, le projet est tombé à l'eau. Voilà.
Oh, putain.
Bon, je sors.
C'est la course à la vanne ce soir.
Au revoir, Benny.
Au revoir. Ah bah non, je dois faire la news suivante en plus.
Alors, reste encore à savoir qui seront attachés au projet d'Iron Fist, Luke Cage, ainsi que le Defenders qui clôturera cette première vague de séries. En tout cas, ça bouge très vite, puisque la semaine dernière, l'annonce de ces séries, cette semaine, l'annonce déjà de deux personnes attachées au projet, ça va très très vite, ils veulent vraiment occuper le buzz médiatique un maximum. Passons à la news suivante, c'est le nouveau logo Marvel que l'on a pu voir dans Thor, notamment Thor The Dark World, cette fois-ci qui se dévoile avec sa propre musique.
Ouais, alors une musique qui s'appelle Fanfare.
Oui, enfin, c'est une fanfare, oui, classique, quoi, orchestre symphonique, blablabla.
Comme tu l'as dit, on avait un premier logo qui était là depuis 11 ans déjà, qu'on a vu pour la première fois avec le film Spider-Man. Et puis bah là, ils ont enfin changé ce logo et on peut le découvrir au début de Thor The Dark World. Et ce sera le nouveau logo qu'ils vont mettre au début de chaque film, en fait, maintenant.
Bah, c'est vrai qu'on l'avait découvert devant Thor The Dark World, mais sans la musique. Là, ouais. Maintenant, on a la musique qui accompagne. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau logo ?
Il est très classe, je trouve. Quand je l'ai vu au ciné, ça m'a surpris et je me suis dit, ils ont fait un effort et il est assez cool, je trouve.
Ah, je trouve. Enfin bon, c'est simple. Hein, ils ont pas changé non plus beaucoup de trucs, mais les peu de trucs qu'ils ont changé, je trouve ça un petit peu trop, bling bling quoi. Pas assez sobre.
Pareil. Moi j'aimais bien. Simple l'ancien logo et je l'aimais bien.
Je suis d'accord.
C'était assez classe avec les pages qui déroulent et tout. C'était vraiment.
Là on a toujours les pages, mais en plus on a le Marvel qui est imprimé en 3D par dessus.
En mode 3D. Ouais, c'est ça.
Et je trouve ça pas du meilleur goût en fait. Mais bon,
ça fait très mat vu.
Exactement, ouais.
C'est Flo qui dit ça. Non mais les gens quoi. Allô.
Moi je suis matu vu, mais il faut arrêter hein, les rumeurs.
Ah, t'es matu vu déjà parce que regarde ta taille, hein, regarde les photos, on est tous les deux à côté, c'est pas possible quoi.
Oui, voilà. Tu ressembles à Frédéric Mitterrand nain.
Les gens, faut arrêter. Au-delà d'1m80, c'est hors norme. Devrait pas y avoir des gens qui font plus d'1m80.
C'est ça. Je fais 79.
Oui, et déjà c'est beaucoup trop grand par rapport à moi.
Quoi? Non, tu fais pas 1m79 toi, c'est pas possible. C'est pas possible. Je fais pas 1m79. Mais non,
c'est sur ma carte.
Tiens, très très mal. Je fais 1m92, 91. Ah non. Sur la photo, c'était choquant.
Ça fait une sacrée différence.
Je ne dirais pas que je fais 1m30.
Faut regarder par rapport aux autres gens qui étaient présents. Hein.
Ça aurait été terrible sur les photos des GBA.
Oui, c'est clair. Ça aurait été terrible. comme je te disais, moi, je bouffais les tétons sans me mettre sur la pointe des pieds. Quoi.
J'allais dire autre chose, moi. J'allais dire une autre partie du corps.
Bon, mais attends, ça va, je suis pas si petit que ça, quand même. Il aurait au moins fallu que je me mette à genoux. Bref, après cet intermède absolument...
utile.
Ouais, voilà. Il y a des moments où on oublie qu'on enregistre. Je sais pas pourquoi.
Très beau nouveau logo, hein, Marvel. Franchement.
Le logo où on est à genoux. Ouais. On va passer à Marvel. L'intérieur de Marvel maintenant. L'intérieur. N'y voyez pas de lien absolument crado, s'il vous plaît. L'intérieur de Marvel Studio où les choses se passent et il y a du rififi chez Marvel en ce moment. Mot interdit depuis 1978, mais j'avais envie de le placer quand même. Puisque Kevin Feige a réfuté les rumeurs que laissait courir Vin Diesel, comme quoi il y aurait soi-disant une fusion des différentes franchises. C'est ce qu'il laissait planer dans quelques interviews, et Kevin Feige a dit non, il n'a aucune idée de ce dont il parle. Fait toujours plaisir.
Ouais, d'un autre côté, j'ai pas trop compris, en fait, Groot, sur quoi il disputait. Attends, si on parle tous en même temps, ça va dit compliqué. Mais oui, je comprends pas de quoi il parle exactement parce que il y a pas fusion. Bah, enfin, si plus ou moins toutes les franchises fonctionnent dans le même univers, quoi. Donc ça dépend après de quelle franchise il parle exactement. Mais,
ah bah non, les franchises Fox ne fonctionnent pas dans le même univers que les franchises Marvel Studios.
Ouais. Oui, non, mais ça d'accord. Bah, ça, je pense que tout le monde le sait et que pour le moment, tant que les studios décident pas de travailler ensemble, ça pourra pas fonctionner. Mais donc il y a pas vraiment de nouveauté quoi. Donc je sais même pas sur quoi ils se disputent véritablement. C'est assez étrange quoi.
Flo, veux-tu rebondir là-dessus ?
Boing boing. Non mais Vin Diesel c'est sûr, il a peut-être envie de se faire un peu plus voir. Il va dire que I am Groot dans un petit film de chez Marvel Studios. Alors forcément, il aimerait bien faire partie de la famille un petit peu plus quoi. Peut-être pour ça qu'il parle beaucoup.
Ouais, en grosso modo, ce qu'il a dit, c'est qu'il voilà, il y aurait une fusion des différentes propriétés. Ce que les journalistes ont monté en épingle, pensant tout de suite qu'il y aurait un gros crossover. Et Feige a répondu à ça en disant qu'il y aurait pas de crossover, grosso modo. Mais Bah, oui, c'est encore une fois, ce sont les rumeurs qui se sont emballées, quoi. J'ai plus l'impression que c'est ça, finalement.
Mm. Ah bah oui, oui, oui. Mais c'est comme ça fonctionne le buzz. Ils savent s'en servir.
Autre chose, par contre, où Feige chie un petit peu dans la colle, et on peut se demander aussi si ce qu'il a dit concernant les crossovers n'est pas juste pour calmer le jeu tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle. Il précise qu'un troisième film de Thor n'est pas encore complètement sûr, puisqu'on a vient de finir la trilogie Loki.
Ouais, vu les chiffres de Thor, à mon avis, il y en aura un troisième. Hein. C'est, il le sait, à mon avis, sans doute qu'il y aura un troisième film. C'est, oh non, on veut pas encore l'annoncer, mais tout le monde sait bien qu'il y aura un troisième film de Thor.
Bah, ça paraît complètement logique, oui. Puis sachant qu'on a eu 3 Iron Man, qu'on aura 3 Captain America, pourquoi pas 3 Thor?
Ouais, bah, je pense qu'ils attendaient simplement les résultats du second, mais vu qu'ils sont plutôt positifs, à mon avis, ils vont y aller. Hein.
Bon voilà, donc à prendre toujours une fois de plus avec des pincettes, hein, ce qui est dit, surtout que Kevin Feige, comme quelqu'un qui maîtrise énormément la communication et qui sait très bien mener le buzz en disant non d'un côté, ah, oui. Puis 2 semaines plus tard dire oui. Ce sera pas la première fois.
J'en connais des gens qui disent ça. C'est non et d'un côté et puis oui de l'autre.
N'y voyez pas de lien, bien sûr. Voilà. Autre chose qui revient sur le devant de la scène, c'est Terrence Howard qui avait joué le rôle de War Machine dans le premier Iron Man, puis remplacé par Don Cheadle dans le numéro 2 et le suivant.
Oui.
Et cette semaine est ressortie l'histoire par rapport à ça concernant son éviction du film. Quelqu'un a envie de nous en parler un petit peu?
Bah, il dit surtout que, en gros, il a aidé Robert Downey Jr. selon lui à être Iron Man et que, bah, pour le deuxième film, Robert Downey Jr. a voulu toute la part du gâteau pour lui et que du coup, il a fait éjecter Terrence Howard parce que Marvel Studios lui aurait dit, ce qu'on t'avait dit sur ton contrat, on le divise par 10. Donc, c'est
par 8. Soyons précis, par 8.
Oui. À voir si ce qu'il dit c'est vrai ou s'il est juste jaloux du succès des franchises, quoi.
Apparemment, son contrat était un contrat pour 3 films, avec un salaire qui augmentait à chaque film, et pour le deuxième, il aurait proposé que le 8e du salaire qu'il devait avoir. Ça me fait rire, mais... Voilà, avec les prétextes que de toute façon, le film il marchera, que tu sois dedans ou pas. Je trouve ça tellement... tellement cool. D'un côté, je me dis, mais comment tu peux te permettre d'arriver en disant à quelqu'un, tu sais ton salaire, bon, on va le diviser par 8, si t'es pas content, tu te casses. Ouais, bref, ça me fait marrer.
Et apparemment, il a essayé de contacter justement Downey Jr. et bizarrement, il a pas eu de réponse de sa part concernant ça. Donc, ça c'est pareil, ça m'a bien fait rire aussi.
Et bah, t'étais tout seul à rire, voilà.
Eh oui, Robert Downey Jr. qui ne l'aurait pas répondu pendant 3 mois. Alors une fois encore, hein, ce sont que les dires d'une personne, on n'a pas l'histoire au complet. Mais c'est marrant que ça revienne sur le devant de la scène en ce moment.
Il a peut-être besoin de sous.
Il dit aussi qu'avoir joué dans Iron Man lui a pourri sa carrière. Et que depuis, il joue plus.
Bon, Robert Downey Jr. et sous, faut pas les mettre dans la même phrase maintenant.
Je suis sûr que c'est une partie de sa vie qu'il souhaite oublier.
Oui, voilà.
Dernière petite news, Jamie Alexander était dans le Jay Leno Show cette semaine. Il est revenu sur la possibilité qu'elle joue Iron Man. Iron Man. Wonder Woman.
Bien
oh là
sûr.
Là, elle mélange. Oh, le mélange.
Bien sûr, mais bien sûr. Après bon, Pepper Potts. Hein,
chose voilà. Qu'elle a dit qu'elle aimerait faire, mais qu'elle est très contente de jouer Sif, blablabla, discours marketing et corporate. Bien sûr, elle était grande fan de Wonder Woman étant petite, elle lisait ses aventures,
toujours. Je le savais. Je te l'avais dit, j'avais fait l'interview avant elle il y a plusieurs semaines déjà. Donc voilà, c'est normal quoi, tout va bien.
Le discours de com classique, donc pas de réponse concernant la présence de Jamie Alexander dans le rôle de Wonder Woman. Enfin, passons à la dernière news ciné de cette semaine, c'est... R2-D2 qui pourrait arriver au casting de Star Wars épisode 7 suite à une photo de J.J. Abrams et de l'équipe de production devant ce petit robot bien connu des fans de la franchise.
On va dire R2-D2 parce que les Français malgré tout disent toujours R2-D2 donc bon, quelquefois qu'ils aient pas compris.
Oui. Quelque chose qui vous fait plaisir ou pas? Oui, pardon Flo.
Oui, tout à fait. C'est très cool. Bah, de toute manière, on s'attendait à ce qu'il y ait des liens, des choses comme ça. Moi, ça me semble nécessaire que dans le set, il y ait R2, quoi. Et Free.io, ça soit... Enfin, moi, c'est normal, quoi. Par contre, je me demande si c'est toujours Kenny Baker qui va jouer R2. il a bientôt 80 ans, donc je ne sais pas s'il pourra se...
Mais il rentre toujours dans la boîte. Il rentre toujours dans la boîte, il rentre même encore mieux maintenant dans la boîte.
Donc après le préparé, racisme.
Bravo. C'est bien. C'est bien, bravo Comic City.
Qu'est-ce que c'est que cette émission ce soir, mon dieu?
Bravo, vous méritez bien votre prix. Bravo.
Je pense que ce sera du CGI ou de la maquette robotisée qu'il y aura plus personne à l'intérieur, à mon avis.
Je vais pas refaire ma blague sur les CGI.
Oui, c'est certain. Bah, évidemment, oui. Oui, c'est sûr.
Ou alors, ils vont peut-être demander à Peter Dinklage de jouer de se mettre dedans.
J'avais pas osé la faire, celle-ci. J'avais même pas osé.
Je me dévoue à ta place, Steve.
Voilà, donc R2-D2 au casting de Star Wars. Il a l'air de vouloir répéter, de respecter la franchise jusqu'à ce qu'on apprenne que R2-D2 sera en fait un reboot. Ce sera en fait R3-D3.
Ou alors c'est le grand méchant de Star Wars 7.
On apprendra qu'il est revenu dans le passé et qu'il a tué Luke Skywalker avant sa naissance.
Non, c'est le nouvel empereur en fait.
À coup de fer à souder.
C'est le grand ennemi.
Et Dieu sait que ça fait mal à coup de fer à souder de se faire tuer. Voilà, c'est tout pour notre partie screening.
Je sais bien comment t'as précisé de se faire tuer.
Oui, non, parce que se faire torturer, ça fait pas forcément toujours très mal, mais se faire tuer, si, c'est long.
Bon,
comme processus. N'essaye pas de... J'essaye de terminer un truc en disant n'importe quoi, mais pour changer de sujet vite. Et du coup, je m'embourbe. Je pourrais faire une transition très très malheureuse avec le sujet qui va venir et le fait de s'embourber. Mais je ne vais pas la faire. Nous allons parler de la citation de la semaine. C'est quelque chose qui a défrayé la chronique sur Twitter. Flo, tu peux nous resituer la situation, s'il te plaît. Avec
oui,
deux
tout
fois
à
le
fait.
Mot situé.
Alors, c'est la dessinatrice Tess Fowler qui est dans le milieu depuis quelques années, qui travaille chez, Zenescope, pas mal, voilà, qui est d'ailleurs assez talentueuse, qui avait fin octobre tweeté sur des choses qui lui étaient arrivées en convention il y a quelques années, une forme de harcèlement, des formes de harcèlement sexuel. Sans préciser qui c'était. Voilà, en gros, elle avait dit qu'elle avait un auteur bien connu et va dire dans une situation maritale et parentale bien engagée avait un petit peu l'avait dragué bien comme il fallait et puis avait été n'avait pas vraiment respecté son choix de repousser ses avances et l'avait un petit peu mal pris voilà et plus ou moins insulté.
Ce soir, on vous annonce le nom, c'était Tiger Woods.
Et donc Bleeding Cool l'avait mis sur son site et donc c'est sorti la semaine dernière. Elle a annoncé sur son Twitter voilà que c'était Brian Wood en fait qui l'avait
qui donc parle
lors
bien
de
son
la
nom.
San Diego Comic Con dans son hôtel lors de la San Diego Comic Con 2007 l'avait abordé et apparemment ça serait quelque chose qui n'est pas c'est pas la première fois a priori et elle a dit que c'était pas voilà que c'était vraiment pas la première fois que Brian Wood avait fait ça. Je le dis textuellement hein, sur son Twitter, c'est je vais le dire, rien à foutre de, que les gens qui veulent pas le savoir. Brian Wood est un con, il a essayé de choper des nanas de manière agressive pendant trop longtemps, faut que ça s'arrête. Voilà, c'était ça. Ça a mis un petit peu de temps quand même à remonter, on va dire, mais Brian Wood a répondu en disant qu'il était bourré à ce moment-là, on s'en était pas douté, et qu'il regrettait son geste, mais qu'en aucun cas il avait été, désagréable. Donc ça, c'est toujours la parole de l'une contre la parole de l'autre.
L'un ayant du poids, l'autre pas du tout. Enfin, dans l'industrie, je veux dire, dans l'industrie.
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, c'est sûr. D'autant, enfin, ce qui est étonnant, c'est que Brian Wood, c'est l'archétype de l'auteur new-yorkais assez hipster et plutôt à la pointe quand il s'agit de revendications féministes.
À la pointe, c'est
de
pas
droits
forcément
de l'homme,
le bon mot.
Qui écrit d'ailleurs souvent des personnages féminins assez forts, etc. Donc le fait que ça tombe sur un auteur comme ça, c'était assez étrange, quoi. Bon, c'était il y a longtemps.
C'était oui, 2007. Longtemps. En passant 2007,
c'était en 2007. Bon, mais
il y a longtemps,
coup,
justement, j'allais dire, c'était pas si vieux, quoi.
Bah, ça fait quand même 6 ans maintenant.
Oui, bah oui, ça fait quelques années. Mais bon, c'était pas il y a 20 ans non plus, quoi.
Non, entre-temps, sa situation maritale et parentale a peut-être changé aussi en 6 ans. Il a peut-être, il est peut-être marié maintenant et a des enfants maintenant, chose qu'il n'avait peut-être pas à l'époque aussi. Ce qui n'excuse pas le geste, attention, ça n'excuse pas le geste, mais la situation n'était peut-être pas la même. Et il faut pas regarder ce qu'il est aujourd'hui avec ce qu'il est, enfin, faut comparer ce qu'il est aujourd'hui avec ce qu'il était en 2007, en fait.
Oui,
Brian Wood n'avait pas autant.
Une phase difficile. Toujours est-il que bon.
Brian Wood n'avait pas autant d'aura en 2007 qu'il en a maintenant.
Tess Fowler, bon, a vraiment sur Twitter a beaucoup parlé à ce niveau-là et pas, je dirais, de manière assez sincère, je dirais. J'ai pas envie de croire qu'elle veut se faire de la pub ou quoi que ce soit. Donc ça, au-delà du nom de Brian Wood, ça marque un petit peu quand même que le sexisme existe pas mal dans les comics, mais ça on en parle souvent beaucoup, on parle souvent.
On c'est vrai qu'on le voit déjà
du
fréquemment.
On parle
fréquemment
du contenu,
avec
les comics.
Séries. Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Et puis même avec les auteurs. Les auteurs simplement, l'agente féminine est très peu représentée dans les auteurs de comics.
On parle du manque de diversité, on parle du contenu, des contenus souvent sexistes des comics dans leur écriture, et là voilà, on voit que il y a les comportements sexistes peuvent arriver même aux, j'irais entre guillemets, aux meilleurs et aux plus respectés des auteurs, aussi respectés qu'un mec comme Brian Wood, qui est quand même pas le dernier des rednecks. Donc c'est quand même très étonnant, voilà.
Ce racisme anti-redneck, je suis choqué.
Moi j'ai envie de dire, appelons-le Brian Woods maintenant, ce sera plus simple. Et puis conseillons-lui des séances de sexothérapie et avouer son comportement, tout le chemin qu'a fait Brian Wood.
Évidemment, Brian Wood, dans sa réponse à Tess Fowler, évidemment, se place en faux et enfin se place évidemment contre tous les abus qu'il y a et dit qu'il veut rendre l'industrie du comic bien plus diverse et arrêter avec le sexisme ambiant. Et j'ai tendance à le croire parce que c'est quelqu'un qui, c'est vraiment un mec qui justement a beaucoup bossé dans ses écrits pour créer des personnages féminins intéressants et a beaucoup travaillé avec des dessinatrices. Donc voilà.
Non, on sait même pas comment elles ont eu le job, quoi. Oh, la vanne dégueulasse. Oh. c'est histoire de mettre un petit peu d'humour, non, parce que c'est quand même un sujet assez grave et assez sérieux.
Moi, ce que je retiendrai, c'était quand même que Flo nous a dit tout à l'heure que chez Brian Wood, ça avait mis du temps à monter.
Mais chez tout le monde. Alors, c'est citer nos sources.
Il n'a pas compris la vanne.
C'était
étonnant. C'est The Outhouseers, le site américain, qui a ressorti les tweets de Tess Fowler, mais les tweets de Tess Fowler n'avaient pas été tellement. Bon, c'est aussi une dessinatrice qui n'a pas énormément de followers sur Twitter. Donc l'histoire n'avait pas trop ressurgi, quoi. Ça a mis un petit peu de temps à sortir.
Moi, je l'ai pas mal vu passer cette semaine, honnêtement. Je l'ai vu un peu partout cette semaine.
Ouais, mais ça a mis un peu de temps quand même. Mais donc voilà, je pense que c'est intéressant qu'on parle un petit peu de ça. c'est un sujet.
Il y a du trémolo dans la voix, il est ému.
Non, mais c'est la preuve que même dans le comics, il y a des Dominique Strauss-Kahn, quoi.
C'était vraiment un truc. Apparemment, c'était plutôt du genre allez viens, je t'attends dans la chambre, t'es prête chérie, vas-y quoi. Et le mec, il avait encore sa enfin Tess Fowler lui avait bien fait comprendre mais t'es vraiment un gros dégueulasse, je crois que tu portes un truc à la main, enfin au doigt.
Ah mais c'est pas une alliance, c'est un cock ring.
Et le mec avait fait mais je t'emmerde, je fais ce que je veux putain, vas-y, viens dans ma chambre. Tu vois, c'était très bon, très beauf quoi. Donc voilà.
Ah mais j'imagine totalement la scène en plus, c'est terrible.
Ouais, c'est assez terrible. Donc voilà.
Bon, oui Valentin, pardon.
J'imagine bien Brian Wood dire excusez-moi, je sors de ma douche.
On va faire quand même une autre petite citation que j'avais repérée qui qui m'a fait tiquer un petit peu, et c'est histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Joe Quesada a parlé du choix du nom de Miracle Man cette semaine, puisqu'on sait que Miracle Man va revenir, et qu'ils avaient décidé d'arrêter le choix sur Miracle Man et non pas sur Marvel Man, tout simplement parce que le nom Marvel Man aura une utilité un de ces quatre.
Bullshit. C'est un gros bullshit. C'est n'importe quoi.
Voilà, moi ça me fait marrer, je me dis qu'après tout comme ça ils exploitent la licence deux fois. Ça me fait un peu rire.
C'est débile. Je trouve ça débile, je pense que c'est des conneries d'une part et puis voilà, c'était pour un peu faire parler de Miracle Man. Bah, on rappelle, pour resituer, Miracle Man, ça a été le deuxième nom de Marvel Man quand Zenith. C'est qui publiait en anglais. Enfin bref, quand Marvel avait donc interdit à l'éditeur d'utiliser le nom Marvel, quoi.
Voilà, chose assez marrante, moi, que j'avais vu passer cette semaine. Passons maintenant aux brèves comics et on va commencer par Marvel puisqu'on y est. Ça nous faisait le petit lien avec Joe Quesada et puis Brian Wood aussi, hein, malgré tout, qui travaille chez Marvel. On commence par les sollicitations pour le mois de février qui sont tombées. Ce qu'on peut retenir des sollicitations de ce mois de février, c'est déjà que après le Wolverine Adamantium Collection que nous avons eu cet été, nous allons avoir un X-Men Adamantium Collection, donc un truc très très cher dans un gros coffret. Bah voilà, le gros bouquin, ça vaut $200, donc c'est quand même relativement cher. Ça fera 720 pages et on retrouvera à l'intérieur des histoires très importantes des X-Men, avec une liaison dégueulasse, les X-Men. Notamment Days of the Future Past, Gold of Man Kills, le mariage de Cyclope et de Jean Grey, bien sûr, Extinction Agenda de Cassandra Nova et bien d'autres choses. Voilà, on surfe sur la vague du gros bouquin qui marche après tout, pourquoi pas. Il y a sûrement un public pour ça.
Ouais, maintenant je suis étonné du nom de la collection du coup, puisque autant sur Wolverine, donc que ça s'appelle Adamantium, c'était un clin d'œil logique, mm-hmm. Autant là, est-ce qu'on va avoir des bouquins Spider-Man Adamantium collection? Ça va faire un peu bizarre finalement, parce que l'Adamantium n'a rien à voir finalement avec ces personnages.
Toutes les histoires oubliées où Spider-Man a des griffes, bien sûr, que nous aura rajouté Dan Slott dans la continuité.
Je comprends pas,
Omnibus, ça a rien à voir avec...
Non. Omnibus, c'est pas un terme Ah non, c'est pas un terme en rapport avec les personnages. Omnibus.
Je suis débile.
Non. Omnibus,
oui,
c'est pas
bien
un terme
sûr,
en
bon,
rapport
voilà,
avec les personnages.
Ils ont vu que ça marchait bien.
Adamantium, c'est... Oui.
Je pense que là, c'est
fallait
plus
qu'il
pour
trouve
le...
un truc.
Pardon, vas-y Flo.
Non, il fallait qu'il trouve un nom qui sonne un peu genre c'est gros, c'est lourd, c'est solide quoi. Et c'est vrai qu'Adamantium Collection, ça sonne plutôt pas mal pour ça.
Je pense au contraire qu'ils avaient pas prévu de faire 36 bouquins dans cette collection, qu'ils en ont fait un avec Wolverine, que ça a fonctionné et qu'ils se sont dit bon bah on va en faire toute une collection.
Oui, voilà, je pense que voilà, ils vont garder le format de la collection, c'est pour ça qu'ils continuent d'appeler Adamantium pour pas que les gens soient perdus.
Bah, ils ont trouvé le nom pas mal finalement et puis ils ont décidé de l'utiliser quoi. Sachant qu'il y a déjà les premières, les first, les deluxe, les omnibus, les ultimates, les enfin il y a des tonnes de connexions chez Marvel.
Les Masterworks et compagnie. Hein.
Les Masterworks.
Et en France, nous avons les Monsters.
Les Monsters, les 100%, les deluxe. Enfin,
voilà.
On en
voilà,
a plein
on
aussi
parle
de
pas
collections
des
chez
différentes
Panini.
Collections chez Panini. J'y comprends rien.
Non mais je veux dire, c'est pas que chez Marvel, je veux dire même chez Panini, on a différentes collections en fonction de ce que c'est. Ce qui me fait marrer, c'est plus le choix aussi, et que quand même $200 pour 720 pages, certes est un bel objet, mais c'est quand même relativement cher, surtout pour des histoires qu'on peut retrouver relativement facilement encore. Certaines peut-être mais d'autres assez facilement. Days of the Future Past, ça va ultra republié, notamment avec l'arrivée du film l'année prochaine. God Love Man Kills, on peut le retrouver encore assez facilement. Le mariage de Cyclope et Jean Grey, peut-être un truc un peu moins facile à trouver. Le Extinction Agenda de Cassandra Nova, le run de Grant Morrison a été republié plein de fois en TPB. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait? C'est ça que je me pose comme question.
C'est vraiment des objets faits pour les fans, hein, parce que c'est plein de petites histoires. Le mec qui veut se mettre X-Men, il va pas acheter ça, c'est clair.
Tout à fait. C'est vraiment pour les fans. C'est pour les collectionneurs qui veulent ça dans leur bibliothèque. Ils vont même pas relire les histoires qui sont à l'intérieur parce qu'ils les ont déjà lues, mais c'est juste vraiment histoire d'avoir l'objet.
Donc là, on va pas dire qu'on vient de faire pleurer Valentin qui nous avait dit avant l'émission qu'il comptait se l'acheter, mais maintenant il hésite parce qu'on l'a tellement bâché.
Voilà.
Ouais. Je suis triste. Tiens,
t'es vraiment un con.
On a tellement bâché Valentin, ouais, c'est ce que j'allais dire.
Autre chose que l'on apprend dans les sollicitations du mois de février, une nouvelle série de Dexter va arriver, toujours par Jeff Lindsay, son créateur.
Alors, plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, j'aurais aimé qu'il fasse un truc comme X-Files chez IDW avec une saison. Alors attends, je réfléchis parce que je
saison
sais 10
plus. Pour X-Files.
Oui, non, bien sûr, mais pour Dexter justement, c'est au fait.
Ça aurait été la saison 8, je crois.
9, voilà, donc j'aurais préféré qu'il nous fasse une saison 9 en comics. Ça m'aurait bien plus intéressé que de relire, entre guillemets, des épisodes, ou en tout cas des histoires qui s'inspirent fortement de ce qu'on a déjà pu voir dans la série télé. Même si ça reste bien écrit. Hein.
Là, apparemment, justement, ils ne veulent pas faire de nouvelles saisons. La mini-série s'appellera Down Under, mini-série en 5, qui emmènera Dexter en Australie.
Ouais. Pas fait.
Voilà
pourquoi
ce que l'on
pas.
Sait pour le moment.
Pourquoi pas, mais en tout cas, je trouve ça beaucoup moins excitant et beaucoup moins intéressant que s'ils avaient fait une suite en comics. Je vois pas pourquoi d'ailleurs ils font pas de suite, pourquoi se réfréner, ça reste un autre média, donc
parce que c'était encore un peu frais. Peut-être qu'il faut attendre une ou deux années, ça vient juste de s'arrêter quoi, donc
ouais.
Laisser le temps peut-être à tout le monde de le voir, attendre la sortie DVD, etc. avant de commencer une saison 9. Je sais pas, hein, ce n'est qu'une supposition. Ou peut-être que la première mini-série n'a pas assez marché pour lancer un ongoing qui serait une nouvelle saison.
Bah justement, il faudrait qu'ils tirent les conclusions des chiffres de vente. Je sais pas lesquels ils sont, hein, mais bon.
Ben voilà, je veux dire, quelque chose en mini-série marcherait, mais pas une série régulière, quoi. C'est peut-être ça le souci. Ah, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans les cercles pensants de Marvel. Bien au contraire, sinon il y a des coups de pied au cul qui se perdraient. Autre chose que l'on peut avoir dans les sollicitations, c'est une rencontre entre les Avengers et les New Avengers qui pourrait ne pas très bien se passer.
Ce qui est logique vu ce que font les New Avengers en ce moment.
On va voir. Alors des rumeurs sont apparues comme quoi Hickman pourrait aussi quitter la série Avengers, enfin toutes les franchises Avengers. Très rapidement, ce sont des choses qui sont apparues cette semaine, et il a clarifié sur Twitter cette semaine aussi qu'il resterait au moins jusque en 2015. Donc, hourra pour certains, pas de chance pour les autres qui n'aiment pas ce qu'il fait.
Moi, je trouve qu'il il a su donner un nouvel angle aux Avengers, moi je suis content qu'il reste jusqu'en 2015.
Moi, je trouve qu'il a su redonner, au fait, cette dimension cosmique qu'avaient les Avengers, qu'ils avaient perdu depuis 8 ans, puisque Bendis les faisait affronter des ennemis dans le jardin à côté.
Ah bah c'était Avengers Mansion, Central Park, Central Park, Avengers Mansion. Quoi.
C'est ça. C'était vraiment ça. C'était devenu un petit peu même ridicule. Donc là, voilà, ils ont enfin récupéré leur dimension cosmique. Ils vont à travers d'autres galaxies, très bien. Maintenant, s'il partait une fois qu'il a fait ce qu'il avait envie de faire, je dirais tant mieux. Vaut mieux ça que de rester pendant 8 ans et refaire sans arrêt les mêmes choses comme Bendis a pu le faire en son temps. Et Avengers versus New Avengers, par contre, là, ça me saoule un peu, quoi. C'est toujours, enfin. On l'a vu combien de fois les deux équipes se clashaient comme ça. Si on faisait le calcul, je pense qu'on a au moins une dizaine de clashs entre les deux équipes.
Mmh. En revanche, ouais, là, il y a quand même une véritable distinction entre les deux équipes.
Oui.
Je t'avoue que oui. Enfin, je crois même qu'il y en a qui sont dans les deux, hein, si je me trompe pas.
Oui. Aussi, oui.
Donc c'est comment ils font? Ils se donnent des coups de poing? Je sais pas.
Ben, on verra. Non, mais...
Réflexion de merde. Voilà.
Valentin, tu allais dire.
Oui, donc ouais, c'est justifié entre guillemets parce que ce que font les New Avengers est caché aux Avengers entre guillemets. Donc moi, ça me surprend pas que on veuille leur demander des comptes.
Autre chose, c'est l'arrivée de la Sisterhood dans la série X-Men de Brian Wood. Un pendant à la Brotherhood, mais qui ne sera pas Of Evil Mutants, selon les dires des sollicitations et de Brian Wood. On pourrait retrouver dans cette équipe uniquement féminine, hein, d'où le nom Sisterhood, Lady Deathstrike, Typhoid Mary et l'Enchantress. Donc trois personnages, un personnage qui est proche des X-Men, certes, mais les autres, Typhoid Mary et Enchantress, pour le moment, c'est quand même des gens qui n'ont pas vraiment de lien avec les X-Men.
Ouais, et donc bof.
Le pitch rappelle un peu Fearless Defenders.
Ouais.
Pour ceux, ben, pour ceux qui suivent la série.
Mais c'est un petit peu ça le problème, vouloir faire des équipes 100% féminines, histoire de dire, regardez, on a des équipes 100% féminines chez Marvel. Ouais, j'attends de voir. J'attends de voir ce qu'ils viennent, ce que ces personnages viennent faire ensemble, vu qu'elles n'ont pas vraiment de lien les unes avec les autres. Je me pose la question. Tant qu'on a une bonne histoire, je suis ok, mais bon, si c'est juste prétexte pour faire des équipes de nana, bof.
Ouais, je sais pas, il faudra attendre pour voir. Moi, j'ai envie de. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ce soit pas forcément des ennemis classiques des X-Men, donc peut-être que ça pourra redonner un petit souffle intéressant. Maintenant, est-ce que, comme tu l'as dit, ce ne sera pas juste un prétexte ? C'est ce qui me fait peur. Autre chose chez Marvel en février, c'est la valse des numéros 1, avec ce All New Marvel Now. Alors, on a le Wolverine qui est relaunché, le Fantastic Four qui est relaunché, on a la nouvelle série Miss Marvel, on a Punisher qui est relaunché, She-Hulk, nouvelle série, Winter Soldier relaunché mais qui sera qu'une mini-série, la nouvelle série New Warriors, Loki Agent of Asgard, et enfin X-Force, le relaunch qui fait fusionner les deux séries Cable on X-Force et Uncanny X-Force. Ça fait beaucoup de numéro 1 en février quand même.
Là, c'est la vague All New Marvel Now.
Ça va, il y en a certaines qui vont pas survivre, je pense.
Je pense aussi.
Ouais. Ouais. Puis ça fait beaucoup de relaunch, certes, mais c'est pas vraiment des nouvelles séries. C'est vraiment des titres, bah, comme on a dit, quoi, relaunché, quoi. Mais il y a pas de nouvelles franchises réelles qui apparaissent.
C'est pas
une vraie. Ouais.
Et New Warriors.
Et... Les New Warriors qui revient sur le devant de la scène, ouais, après au moins 10 ans de,
ouais,
de disparition.
Et New Warriors, je suis d'accord. Loki, maintenant, il était quand même là, véritablement, dans Journey into Mystery, puis dans Young Avengers. Donc, c'est pas vraiment nouveau non plus, quoi.
Bah, il était là, ouais, en tant que personnage principal dans Journey into Mystery. Dans Young Avengers, il est pas vraiment le personnage principal, c'est une équipe. Donc, bon. Puis là, apparemment, il y a une direction différente qui est apportée. Je suis pas certain que la direction sera vraiment différente pour Wolverine. Ouais. Ou pour Punisher, par exemple, même si, bon voilà, par Matt Hudson, Punisher, j'ai envie d'aller voir, mais je suis pas certain que ce soit vraiment des choses foncièrement différentes de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Alors justement, ces nouvelles séries qui démarrent, bah, vont faire que certaines séries vont s'arrêter. Daredevil s'arrête, on en avait déjà parlé au numéro 36, donc le numéro 36 sortira en mois de février. X-Men Legacy, cette fois-ci c'est officiel, s'arrête vraiment au numéro 24, on n'était pas vraiment sûr que ça s'arrête la semaine dernière. Young Avengers s'arrête aussi, le mois de janvier signera le dernier numéro de cette série. Et enfin, chose assez surprenante, Wolverine and the X-Men s'arrête en février.
Oui, numéro 42.
C'est assez étonnant, moi j'aurais pensé que peut-être quelqu'un aurait pu récupérer la franchise, hein, c'est ce que je disais dans le Comics Weekly de cette semaine. Ça aurait peut-être pu être intéressant d'avoir quelqu'un d'autre qui écrive l'école, puisque Jason Aaron a maintenant sa série Amazing X-Men. Pourquoi pas donner la chance à quelqu'un d'autre d'essayer de faire quelque chose, pourquoi pas, de différent. Bah là non, finalement, il décide d'arrêter tout simplement la série.
Bah c'était, ouais, c'était son bébé, et Amazing X-Men, bon, on le voit dans le numéro 1, c'est vraiment une nouvelle saison de Wolverine and the X-Men, quoi. Ça sera, c'est vraiment dans la, ça, on sent que c'est dans la continuité, quoi, avec évidemment un personnage en plus qui débarque, mais c'est son nouveau jouet, et voilà. Et c'est peut-être une bonne nouvelle parce que, bon, Wolverine and the X-Men, était un petit peu fatigué, quoi.
Certains nous ont dit en commentaire, hein, sur le site qu'ils ne trouvent pas que ce soit fatigué, contrairement à toi. Mais
Il y a eu des hauts et des bas, on va dire.
Oui, non, mais après, je transmets juste, hein, ce que j'ai
vu. Je vois pas pourquoi ce serait différent parce que tu fais une nouvelle série que d'un seul coup tu te réveilles. Finalement, Amazing X-Men, pourquoi ce serait beaucoup mieux que Wolverine and the X-Men vu que c'est le même type qui est derrière. S'il a des idées pour Amazing X-Men, il devrait pouvoir être capable de continuer Wolverine and the X-Men et que ce soit toujours un bon niveau, quoi, actuellement.
Bah, si on veut essayer d'aller un peu loin dans le raisonnement et être un peu parano, on pourrait imaginer un peu que le projet Amazing X-Men avait été un peu pensé comme une suite de Wolverine et the X-Men et qu'ils ont préféré faire une nouvelle série avec un nouveau numéro 1. Avec un gros focus sur Nightcrawler, voilà, tout simplement.
Non mais forcément, on va aussi reprendre la stratégie Marvel actuellement. Les séries s'arrêtent vite. Daredevil arrive à son numéro 36, on la dégage. Wolverine and the X-Men est au numéro 42. Mon Dieu, c'est la série la plus longue de chez Marvel actuellement.
Et non, mais ce qui est aussi choquant, enfin, ça me choque un peu, c'est que ils les arrêtent sans tambour ni trompette. Oh, la vieille expression d'il y a deux siècles. Parce que l'arrêter au numéro 42, bah, je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est même pas arrêté au numéro 45 ou 50. C'est même pas un numéro anniversaire, un petit peu. C'est voilà, numéro 42.
Oui,
ça veut rien dire.
Marvel s'en fout, quoi. Numéros anniversaires, Marvel s'en fout. Ce qui compte, c'est les numéros 1.
C'est vraiment dommage, parce que rappelez-vous, à l'époque où ça a été lancé, c'était vraiment un succès, et se dire que ça s'arrête comme ça au numéro 42, pas dans l'indifférence la plus générale, mais bon, voilà, on est un petit peu passé à autre chose, je trouve ça dommage.
Voilà. Alors la sollicitation, on nous parle d'amener une fin à la Jean Grey School. Alors,
oui, forcément,
est-ce que ce sera la fermeture de la Jean Grey School, ou est-ce qu'elle va rester et qu'on la verra dans d'autres séries? Bah, la réponse en février, justement. Avec ce numéro 42. Je sais pas, moi j'aurais quand même envie que ça reste parce que c'est un bon ajout, un ajout si on peut parler d'ajout, parce que finalement la Jean Grey School, avant ça s'appelait la Westchester Academy, mais c'est la même chose. Le fait qu'il y ait ce schisme, pourquoi pas, enfin on verra. On va justement continuer avec ces nouvelles séries qui sont relancées. Le Wolverine, on a eu ce teaser qui s'appelait Mortal, par Paul Cornell et Ryan Stegman. On sait donc que c'est ce nouveau numéro 1 de Wolverine. Série relaunchée après le numéro 15, 16, un truc comme ça.
12
ouais, peut-être. Était-ce vraiment utile de relauncher encore une fois Wolverine?
Même syndrome que Miss Marvel, que Captain Marvel, c'est relaunché avec la même équipe, enfin en tout cas avec le même scénariste, donc un relaunch totalement artificiel pour rebooster un peu les ventes. C'est bon, voilà, c'est la relaunchite aiguë de Marvel. Ça faisait longtemps qu'il voilà, depuis l'annonce du All New Marvel No, bon, on est prévenu, on va avoir droit à plein de relaunch.
Alors, on comprend déjà tout de suite ce qui va se passer à la fin de l'arc en cours qui s'appelle Killable. On nous a baptisé Mortal, donc Wolverine. On peut comprendre, va perdre son facteur auto-guérisseur. Ce qui,
mais
pour
ça,
moi,
ça,
est une
ça
totalité.
Ça devait pas déjà arriver? Non, mais ça devait pas déjà arriver depuis super longtemps.
Bah, c'est l'arc qui est en cours, justement.
Il est en cours.
Ça fait 6 mois qu'on en parle de cette histoire où il doit perdre son facteur auto-guérisseur. On en parlait à l'époque de la sortie du film déjà, puisqu'on faisait lien avec le film.
Il l'a toujours perdu. Et on fait un numéro 1 parce que le statu quo est toujours en cours. C'est ça.
Donc Wolverine est mortel. Wolverine a un nouveau costume, avec ce qui ressemble un peu plus à une armure. Et surtout, Wolverine a des flingues.
Il n'y a pas de secret, hein. Si c'est relaunché aussi vite, c'est que ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que c'est le genre de titre qui vend uniquement par numéro 1, et puis c'est tout, hein. après c'est fini, quoi.
J'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est comme l'arrivée de Ryan Stegman au dessin. Ouais, moi, j'aime beaucoup. J'ai bien envie de le voir sur Wolverine, mais j'ai pas envie de lire les histoires de Cornell qui m'emmerdent.
Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une année chez Marvel, limite une année sans Wolverine, tu vois. Ça n'arrivera jamais, mais voilà, ce serait bénéfique, je pense, pour tout le monde, parce que j'en ai ras-le-bol de Wolverine. Sérieusement, il n'y a plus rien à raconter dessus. J'ai pas lu une bonne histoire de Wolverine depuis un bail. Voilà, donc.
Mais ils feront jamais parce que ce serait tuer la poule aux œufs d'or.
Ouais, ben enfin la poule aux œufs d'or maintenant, c'est des œufs en bronze, hein, qu'elle fait. Hein.
En plomb.
Oui. Non, mais enfin voilà, c'est des gros bronzes bien pourris.
Bien
odorants. Oui, voilà, c'est ça. Non mais franchement, c'est pas génial. La preuve, hein, c'est que les séries Wolverine n'ont plus l'air de fonctionner autant qu'avant. Et puis mine de rien, bah les séries, les titres dans lesquels il était. Périclite un petit peu, voilà, Wolverine and the X-Men s'arrête. Bon, est-ce qu'il faut pas y voir un signe d'essoufflement aussi des fans envers ce personnage parce qu'il y en a trop eu pendant des années?
De toute façon, les fans gueulent depuis des années qu'il y a trop de Wolverine, mais pourtant ça marche toujours, enfin ça s'achète au moins assez pour que Marvel continue.
En fait, c'est grâce au film, hein, je pense. C'est surtout le film à chaque fois qui relance la machine Wolverine dans les comics.
Moi, je dis, c'est le paradoxe du fan en général. On gueule sur les events, tout le monde gueule qu'il y a trop d'events, etc., mais tout le monde achète en masse. Donc de toute façon, ils continueront d'en faire.
Enfin, tout le monde, voilà.
Bah, les chiffres de vente le prouvent, en tout cas.
Ouais, non,
quand il y a des events, les events sont devant, quoi.
Nous, on sait très bien que, voilà, quand on dit qu'un truc est pourri, enfin, je veux dire, Age of Ultron, on n'a pas acheté toute la, on va pas acheter l'omnibus Age of Ultron, quoi.
Non, c'est sûr. Bon, après, notre cas est particulier parce qu'on est aussi des fois obligé d'acheter des merdes parce qu'il faut en parler.
Ouais, mais
on se sent un
voilà,
petit peu
quoi,
obligé
y a des
d'en parler.
limites.
Donc, notre cas est quand même vraiment particulier. C'est vrai que si on n'avait pas cette émission à faire,
Superior Spider-Man, j'ai dit que j'ai arrêté de le lire au début de Superior Spider-Man, c'est vrai que je le lis pas, quoi. Ça
oui, ben
fait
voilà,
21
bien sûr.
numéros que j'ai arrêté.
Bien
Tu
sûr.
as tort, Bunny, c'est très bon, Superior
Oh,
Spider-Man.
oh, oh, mais t'as, oh,
Non, mais dis-le, vas-y.
J'aime bien comment ça te fait plaisir.
Allez, on passe une autre série relaunchée, c'est Fantastic Four, avec l'arrivée de James Robinson sur le titre, qui en a dévoilé légèrement, Valentin.
Tout à fait. Donc, il dit qu'il va les ramener au Baxter Building, tout en reprenant des éléments du run de Fraction, à savoir Ant-Man, Miss Thing, les enfants Richards. Mais il va vraiment essayer de recentrer dans le Baxter Building et remettre des connexions avec le reste du Marvel Universe. Donc, bah, ça peut être une très bonne série, je pense. Surtout écrit par Robinson, qui fait sur Earth 2, qui était excellent. Donc moi j'ai ouais là le FF de Robinson, ça peut être très intéressant. Surtout qu'il bah il va faire du classique entre guillemets, mais avec lui je pense que ça peut donner quelque chose de très bien. Il va remettre les Fantastic Four, les Doctor Doom, mais je pense que ça peut être assez bon.
Alors, il a dit qu'il centrerait une partie de son run, ou en tout cas de son premier arc, sur la Human Torch. À voir ce que ça va donner. En revanche, le fait de dire que il va reprendre les éléments de Fraction et notamment Ant-Man dans l'équipe, c'était Tom DeFalco dans les années 90 déjà.
Oui,
À
mais il
l'époque,
va.
oui, non, mais enfin voilà. Mais c'est vrai que dans la tête des gens, Ant-Man est dans l'équipe depuis peut-être pas longtemps, mais en réalité, quand on regarde un tout petit peu en arrière, Tom DeFalco l'avait déjà fait fin des années 90, à l'époque où Reed Richards était mort, d'avoir mis Ant-Man Scott Lang dans l'équipe.
Oui. Et il dit aussi justement par rapport à la torche humaine que il a demandé à son dessinateur de faire du coup les deux torches humaines, parce qu'il va écrire aussi All in New Invaders, de faire les deux torches humaines différentes pour qu'on puisse les reconnaître en fait. Que Jim Hammond ait un embrasement particulier différent de la torche humaine.
Rappelons que le dessinateur sur Fantastic Four, c'est Leonard Kirk. Ce qui n'est pas un débutant quand même. Passons à autre chose, c'est X-Force par Simon Spurrier qui va être relancé, donc cette fusion entre les deux équipes X-Force, avec un casting qui sera une équipe, on va dire, de mercenaires un peu commando. Voilà, on reste un peu dans le pitch d'Uncanny X-Force hein, quand même. Et on va avoir surtout quatre membres principaux, Psylocke, Phantom X, Maro, et je ne trouve plus quatrième, mais Cable, bien sûr. Et après, le reste sera un peu un casting tournant. Il y aura d'autres membres qui vont venir rejoindre l'équipe et qui repartiront. Voilà. Le retour de Maro.
Et il a dit,
c'est ce que j'allais dire.
En 2014, étonnant.
Il a dit aussi qu'il y aurait le Docteur Nemesis, parce qu'il y avait beaucoup de demandes de fans pour savoir s'il serait dans le titre X-Force. Donc oui, il y sera, ce Docteur Nemesis.
Benny, ouais, tu disais sur Maro?
Oui, bah Maro, personnage emblématique pour nous, lecteurs des années 90, avec sa fameuse colonne vertébrale qui donne des coups de fouet, hein, voilà, qui fouette avec sa colonne. Personnage aussi bien connu des joueurs de Marvel versus Capcom 2, puisqu'elle était dans les jeux vidéo de baston à l'époque aussi.
Une Maro qui contrôle apparemment bien mieux son pouvoir, hein, vu les images que l'on peut voir.
Oui, puis il était aussi en pleine, rappelle-toi, elle avait quelques petits problèmes de mutation et apparemment ça a l'air d'aller mieux.
Bah ça c'est depuis AVX, c'est le retour du Phénix et
voilà,
la fin du
c'est
No More
peut-être ça.
Mutants, hein.
Ouais. Faut voir, faut voir.
On verra. Bon, je suis quand même un peu moins emballé par cette série, personnellement.
Oui, moi aussi. Ouais.
Même si j'apprécie qu'ils essaient de donner la chance au titre en fusionnant les deux, je pense pas que ça dure très longtemps, à mon avis.
Bon, c'est même pas qu'ils essayent de donner la chance, c'est qu'ils se rendent compte que deux titres c'était trop et ça vendait pas. Donc voilà, on va en faire qu'un seul, tant pis, pas grave.
On va terminer notre partie Marvel avec l'annonce du Free Comic Book Day de 2014.
Et
on aura
tout à fait, ouais.
Un Guardians of the Galaxy Free Comic Book Day.
Ouais, Mais pas que. Alors, donc déjà, le Guardian of the Galaxy Free Comic Book Day sera écrit par Brian Michael Bendis et Nick Bradshaw, donc qui capitalise totalement sur le fait que bah, le film arrive à grands pas, hein, le Guardian of the Galaxy.
Une histoire inédite en plus.
Une histoire inédite qui nous annonce vraiment de grandes choses pour l'année 2014, comme c'est étonnant, on s'y attendait pas du tout. Je pensais qu'ils allaient rien nous raconter avec ce Free Comic Book Day. donc,
comme on est mauvaise langue.
Voilà, donc de nouveaux membres, dont le nouveau Captain Marvel, le ou la, je ne sais pas, je ne sais plus d'ailleurs maintenant.
Avec une coupe absolument à vomir.
Ouais, et puis oui, c'est ça, oh mon dieu. Et puis un personnage mystère, alors qu'on n'attend pas du tout de voir dans les Gardiens de la Galaxie. On dirait Cable, enfin oui. On dirait une espèce de silhouette de gros mercenaire. Oui, alors est-ce que c'est Bishop? Je ne sais pas.
Oh mon dieu.
En
non.
Tout cas.
Puis rappelons que Bishop a déjà parcouru la galaxie dans sa série complètement oubliée des années 90, Bishop de Last X-Man.
Ouais. Donc non mais enfin voilà, on peut se poser la question. En tout cas, ça a l'air d'être une grosse brutasse. Soi-disant qu'on n'attend pas de voir dans une série Guardians. Donc.
C'est Thanos.
Ouais, ou Wolverine.
Oh non, non, pitié.
Oh pitié. Non, pitié.
On s'attend, enfin je sais pas, Wolverine, on le met partout, donc bon, personnellement, qu'il soit dans l'espace ou ailleurs, enfin voilà. Non mais Cable, pourquoi pas, Bishop, pourquoi pas, enfin c'est vraiment pas des personnages qu'on voit tellement dans l'espace. Je sais pas.
Les quand tu regardes sur le côté, il y a un, je sais pas, la silhouette pourrait ressembler aussi à Apocalypse.
Apocalypse.
Ouais.
L'Apocalypse dans l'espace.
Avec des flingues.
Pourquoi est-ce qu'il aiderait les gardiens? Enfin, c'est
mais justement, parce qu'on ne l'attend pas.
Ce serait peut-être Genesis, du coup, le jeune Apocalypse, ouais. qui était dans Wolverine and the X-Men.
Enfin, faut
voir. Les spéculations vont bon train, quoi.
Ouais, et alors, aussi autre chose, il y aura un backup par Dan Slott et Giuseppe Camuncoli sur le gros event Spider-Man de l'année 2014. Donc voilà, bah, un Free Comic Book Day qui quand même donne envie.
La date, c'est le 3 mai 2014, donc réservez déjà votre journée pour ce Free Comic Book Day.
Ouais, qui donne plus envie d'ailleurs que celui de l'an passé. Hein. Enfin, je parle pour moi.
Oui, 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 clairement.
Non, c'est clair qu'il fait sacrément envie.
On va passer maintenant à DC, avec des petites annonces aussi du côté de chez DC. Une grosse rumeur qui est tombée cette semaine. Flo, un comic Batman chez Vertigo.
Oui, 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 c'est Eduardo Risso, donc le fameux dessinateur argentin, qui a annoncé ça lors d'une interview dans un grand festival de bande dessinée au Brésil cette semaine, et qui donc a annoncé qu'il travaillait avec Paul Dini sur une série Vertigo qui se pencherait sur un personnage de l'univers Batman, mais chez Vertigo, donc probablement une réinterprétation assez badass, peut-être assez violente d'un personnage de l'univers Batman. Connaissant les accointances d'Eduardo Risso avec les univers noirs, on pourrait imaginer un Gotham très noir avec pourquoi pas, je sais pas, un Bullock ou un Gordon, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose de très street level. Donc voilà, il a annoncé ça. Voilà, c'est je ne vois pas raconter des conneries, et ça n'a pas encore été officialisé par DC et Vertigo, mais ça semble très sérieux. Voilà. Donc c'est une très 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 bonne nouvelle. Je suis très content de revoir Eduardo Risso, qu'on voit en ce moment sur 100 Bullets, Brother Lono, et qui est un dessinateur que j'adore absolument.
Qui a un style très particulier. Je sais que certaines personnes qui voulaient se mettre à 100 Bullets ont été un petit peu rebutées par ce style.
Je suis tombé amoureux grâce à son style, justement.
Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup, mais enfin je sais que ça étonne les gens au début. Mais ensuite, c'est tellement bon cette série que de toute façon ils s'y font et ils deviennent fans du style de l'auteur, qui serait parfait d'ailleurs pour ce type de titre.
Mais rappelons qu'il a déjà dessiné du Batman, notamment dans la mini-série Flashpoint.
Oui, qui était excellente d'ailleurs, cette mini-série.
Donc si vous voulez voir déjà un premier aperçu de ce qu'il peut donner sur des pages de Batman, reportez-vous à cette mini-série Flashpoint, Batman... je sais plus, ça avait un titre à la con, Batman of the Vengeance ou un truc dans le genre.
Vengeance of the Night ou of the Dark of the Justice League of America plus Alpha 3. Mais en tout cas, très très bonne mini-série. D'ailleurs, quel dommage que Brian Azzarello ne soit jamais revenu sur Batman depuis.
Et ben, il a fait en 2003 Batman Broken City aussi.
Oui, j'avais vu.
Oui, mais pas revenu depuis, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Bah, Broken City, je l'avais lu. C'était sympa, mais c'était beaucoup plus anecdotique que son arc sur Flashpoint.
C'est lui qui le scénarisait, je crois, en plus.
Au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette news, c'est l'arrivée de Batman chez Vertigo. C'est-à-dire qu'on a la transmission d'un personnage emblématique de chez DC. Bon, on va reconnaître aussi que ça fait vendre, hein, donc forcément. Mais l'arrivée d'un personnage de chez DC chez Vertigo, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. On a vu l'exemple de Constantine, de Swamp Thing, etc., qui sont revenus dans le giron de DC, ou Animal Man, même s'il était déjà revenu bien avant le New 52. Et là, c'est Batman qui va passer chez DC, chez Vertigo, pardon, sans forcément quitter DC, mais c'est quand même assez rare. Je peux me tromper, mais je crois qu'à ma connaissance, dans les personnages comme ça, dans les trucs les plus récents, c'était il y a 20 ans, il y avait Jonah Hex.
Ouais, on avait eu par contre du Batman chez First Wave, et First Wave, c'était quoi alors du coup?
C'était du DC, mais c'était une gamme de chez DC, quoi.
Ouais, d'accord, ok.
First Wave qui était cette gamme où on mettait des héros pulp, notamment, on avait mis Batman pour faire vendre.
Voilà, c'est ça.
Qui avait tellement bien marché. Et du coup, ça avait été
publié... Ouais, ça avait été publié en français, justement, pas chez Urban, donc c'était un petit peu étonnant, en fait, de voir du Batman en dehors de chez Urban, récemment.
Ouais, c'était en Kama, je crois.
Ouais.
Mais du coup, ça peut être un perso un peu dark. Moi, je pensais à Solomon Grundy, le voir avant sa transformation en zombie, avec un truc assez noir, comme vous disiez, ça peut être très intéressant.
Ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, pour le moment, on n'en sait rien du tout.
Oui, parce que de toute façon, l'univers de Batman touche tout l'univers DC, en fait, puisque l'univers de Batman, c'est l'univers de DC.
C'est Paul Dini qui va l'écrire, donc c'est quelqu'un qui connaît ses personnages.
On va passer maintenant aux sollicitations de DC, ce qu'on a pu apprendre grâce aux sollicitations du mois de février, mais pas grand-chose vraiment de très marquant chez DC au mois de février. Lois Lane va avoir un one-shot, puisque c'est le 75e anniversaire de Lois Lane également. Un truc qui s'appellera Superman Lois Lane numéro 1, mais bon, on met un numéro 1.
La chirurgie esthétique fait des miracles. Hein.
Ce sera écrit par Marguerite Bennett et dessiné par Emanuela Lupacchino.
Super. Alors Marguerite Bennett, c'était celle qui avait fait un truc sur Batman il y a pas longtemps, là, je crois, que j'avais lu.
Elle a fait l'annual, elle a fait le one-shot sur Lobo, elle va reprendre la série Talon au numéro 15. Et c'est la petite nouvelle de DC qui est une collègue de James Tynion et ancienne élève de Scott Snyder. Et donc qui a tout approuvé.
Qui a vraiment encore tout approuvé, puisque c'était pas terrible ce que j'avais lu, grand regret d'ailleurs.
Marguerite Bennett qui aura quand même un gros spotlight en février, puisqu'elle aura le droit aussi à un deuxième one-shot qui s'appellera Joker's Daughter, donc on fait un one-shot sur ce personnage, et cette fois-ci ce sera dessiné par Megan Ettrick, donc deux one-shots avec des équipes totalement féminines. DC essaye de surfer sur la vague, j'ai l'impression, du tout féminin, là aussi. Un peu en retard, mais...
Pourvu que ce soit bon, quoi. C'est tout ce que je demande. Surtout que Talon est vraiment pas mal, donc pitié, quoi.
Mais Talon s'arrête, donc.
Ah oui, bon bah alors. Oui, c'est vrai, bah oui, puisque ça devient. Oui, oui. Oui, ça y est. Je retrouve mes esprits.
Autre chose intéressante du mois de février, le retour de Omak. Série qui avait été arrêtée au bout de 8 épisodes. Omak va revenir dans les pages de Suicide Squad.
Ouais, donc un personnage de Kirby, remis au goût du jour par Dan Didio avec les New 52, qui revient.
C'est une nouvelle qui a dû faire bondir de joie Bruno, qui n'a pas pu être là ce soir.
On le voyait déjà en fait dans les numéros de Suicide Squad. C'était un peu la mission de l'équipe de ramener Omak à Amanda Waller.
Sam, il avait pas aimé Omak.
Je crois pas qu'il l'ait lu. Je sais pas, je veux pas m'avancer, je sais plus du tout.
Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
Voilà, donc le retour d'Omac. Continuons, Forever Evil arrive à presque sa fin au mois de février. La fin définitive sera au mois de mars. Et on apprend qu'au mois de février, dans les pages de Forever Evil, on aura le destin final de Nightwing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, oui,
on sait qu'il est dans le caca depuis le début de Forever Evil.
Je pense qu'il peut mourir, puisque de toute façon, il peut ressusciter, sachant que si on a lu l'arc Night of the Owls et enfin le truc avec les hiboux, quoi, on sait que il a plus ou moins eu pendant des années cette espèce de truc dans ses dents là. C'est assez bizarre ce que je raconte, mais rappelez-vous.
Oui, il était un truc avec le talon, et puis voilà, ses ancêtres qui faisaient partie des talons.
Théoriquement, il est plus ou moins immortel, quoi. Au fait, depuis ça, on sait qu'il est plus ou moins immortel, donc ils ont qu'à le tuer, ils auront une surprise. Voilà.
Enfin, dernière news très importante pour DC au mois de février. Il faudra surveiller le Teen Titans 28, car il va y avoir un gros changement concernant le personnage de Kid Flash, qui a été un peu trop teasé. On n'en parlera pas ici pour éviter les spoils, mais le personnage va changer radicalement, et ça peut-être redonner un petit coup de boost à ce personnage qui, bah, honnêtement, n'a rien apporté depuis son arrivée dans les New 52, je trouve.
Le fait qu'il devienne l'anti-monitor, franchement, ça m'a... Je me demande comment ils vont faire, quoi.
Et le fait qu'il tue Flash aussi, ça m'a surpris.
Ouais. C'est incroyable.
Ça peut-être donner un petit coup de boost à ce personnage et peut-être à la franchise Teen Titans. Qui,
en même temps, faire fusionner donc l'anti-monitor et la force véloce, je trouve que c'est une idée plutôt pas mal. Hein.
Rappelons quand même que les Teen Titans subissent énormément de changements ces derniers temps, notamment avec le Superboy, on va pas répéter la news, si vous ne la savez pas, gardez-vous la surprise. Kid Flash qui va aussi changer. J'ai l'impression de voir une déconstruction peu à peu de l'équipe.
Ouais, ou bien alors, oui, je sais pas, on verra si il remanie un petit peu le casting.
Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire de vraiment intéressant sur les sollicitations de DC au mois de février. Franchement, c'est très peu hein, quand on compare avec Marvel. Peut-être se sont-ils dit, c'est le gros mois All New Marvel là, on va peut-être pas lancer les gros projets maintenant, ça servira à rien.
Ouais, tout à fait. Tout
et puis sachant qu'on aura la fin de Forever Evil au mois de mars.
Ouais, il faudra attendre les sollicitations d'avril pour voir sans doute de grosses surprises.
Continuons avec le futur pseudo-event de DC, hein, qui ne restait qu'une rumeur pour le moment, 5 Years Later, Benny.
Oui, alors bah tout simplement, ce fameux événement dont on avait parlé il y a quelque temps, qui est confirmé, voilà, donc il y aura bien un autre événement 5 Years Later, Later, parce que voilà. Donc, ça reprend tout simplement le principe de 52, hein, et de plein d'autres mini-séries qu'on avait eues comme ça, enfin maxi-séries, donc voilà, sur 52 semaines pendant un an. Et la question, c'est savoir qu'est-ce que ça va annoncer concrètement pour la suite, puisque généralement ça débouche sur un gros truc. Donc là, comme je disais, on aura peut-être une nouvelle crise en 2015, on verra. Toujours est-il que, là, grosso modo, ils nous disent que, grâce à ça, ils vont pouvoir expérimenter plein de choses, parce que en faisant un bond dans le temps, tout devient possible. Donc, faut s'attendre à de méga grosses surprises. Donc, c'est plutôt alléchant tout ça. Mais voilà, enfin tout ce qu'il y a à retenir pour le moment, c'est que ça devient totalement officiel, puisque jusqu'à maintenant, c'était qu'à l'état de rumeur.
Autre chose, Danny Dio a parlé de weeklies et non pas de weekly. Donc on sait qu'il y avait déjà Batman Eternal, il y a 5 Years Later, mais on risque d'avoir aussi une troisième série hebdo qui serait centrée sur Superman.
Ouais.
D'après les rumeurs de Bleeding Cool, donc à prendre avec des pincettes, mais voilà, la troisième rumeur et la troisième série hebdo. Trois séries hebdo, c'est peut-être un peu trop.
Ah, c'est même... Enfin, moi je sens la catastrophe parce que même à l'époque de 52, je sais que lire le truc chaque semaine, au bout d'un moment, je me disais, au bout de la 40e semaine, je me disais, ouh, bon, allez, on y repart. Alors là, deux titres, mais alors si c'est trois, non, enfin, j'y arriverai pas. Clairement, j'y arriverai pas, quoi. On va être saoulé, ça va être assez terrible. Je pense que c'est vraiment une erreur.
L'autre question, c'est qu'est-ce que ça signifie sur les 52? Est-ce qu'il faudra prendre en compte ces titres qui sortiront donc les semaines ou il y a 4 semaines?
Faut oublier ça, quoi. Les 52.
Depuis 6 mois.
Jusqu'à présent, ils essaient quand même encore de s'y tenir en termes d'ongoing.
Mais c'est ridicule, c'est ridicule. Ils se tirent vraiment des balles dans le pied. Enfin, là ils ont même entamé la jambe, là.
Ce serait un bon moyen pour eux de réduire la voilure en sortant donc 12 épisodes. Ça ferait donc 52 moins 12 et ça ferait plus que 40 ongoing. Ou alors, est-ce qu'ils les comptent comme une seule série qui nous feront 51 ongoing et ces 3 séries hebdo? On verra quand ça sortira, en tout cas, mais voilà. Bon, DC essaye de faire bouger les choses. En bien ou en mal, à vous de voir.
Je pense que ça va être un petit peu l'overdose. Je pense pas que ce soit une bonne solution d'avoir trois titres mensuels. Trois titres hebdomadaires. Je trouve pas que ce soit la solution.
Il y a bien des gens qui font deux émissions hebdo.
Mais ce n'est pas la solution. Bref.
Terminons notre partie d'essai avec des rumeurs qui ne sont presque plus des rumeurs maintenant. Le retour de personnages emblématiques qu'on en attendait depuis le début des New 52. Valentin.
Oui, donc c'est dans le dernier numéro du DC All Access qu'on a vu sur un tableau blanc qui était probablement dans le bureau de Dan Didio des Wally, Donna, Stephanie de marquer avec des flèches. Donc pour Wally, il y avait une flèche marquée Flash. Pour Donna, il y avait les initiales SM/WW, donc la série Superman Wonder Woman. Et pour Stephanie, il y avait le BMW, donc pour Batman Monthly, la série de Batman, comme vous disiez, hebdomadaire, mais qui a été barré pour remettre Amazon. Donc on va peut-être avoir les nouveaux Wally, Donna et New 52, sachant que comme Stéphanie a été plus ou moins officialisée, ce serait vraiment du sûr pour Wally et Donna, et pas juste une blague de Dan Didio qui sait que les fans vont chercher sur le tableau blanc, quoi.
Ouais, bon, le tableau blanc, ça aurait été bien de le revoir peut-être dans les pages d'un comic façon Booster Gold.
Ouais.
Moi, c'est vrai qu'honnêtement, j'aimais bien ce truc-là où on se creuser un petit peu la tête à essayer de comprendre le sens des choses.
Façon Edge of Ultron, bien sûr.
Aussi. mais enfin, bon, c'est vrai que, bon, là, c'est un véritable tableau blanc de travail. Moi, je préférais la solution de l'inclure dans le comic, personnellement. Je trouvais ça plus sympa. Je sais
oui,
pas, il y a des pages Tanya de New 52 qui servent à rien. Hein. On pourrait peut-être remplacer ça, non?
Tout à fait, tout à fait.
Oui,
tout à fait. Bah, il devrait faire des pages teasing comme ça, plutôt que de nous faire cette espèce de truc atroce avec Ambush Bug, là, j'en peux plus.
Qui, je rappelle, pour la semaine dernière, en tout cas, répété pour la troisième fois la même planche. Quand même. Deux pages que vous payez pour rien, rappelons-le quand même, parce que ça fait partie du prix du numéro. Hein. Allez, on va passer maintenant à notre partie indé, et on commence avec toi, Flo, qui va nous parler de nouvelle arrivée de numéro 0 pour Valiant.
Oui, en février, en mars, chez Valiant, on aime bien parler de chez Valiant, de Valiant ici, parce qu'on les aime beaucoup. Il va y avoir un nouveau Archer and Armstrong, Archer numéro 0. Donc il va revenir sur l'enfance d'Archer. La couverture, c'est Archer tout bébé, donc ça va vraiment un vrai numéro 0, genre 0 ans. On aura Bloodshot and Hardcore, Hardcore 0. On avait déjà eu un Bloodshot 0 cette année, et on va avoir un Hardcore 0. Ensuite, Harbinger aura droit à son Bleeding Monk 0. C'est intéressant. En tout cas, c'est un personnage assez mystérieux de la série que j'aime beaucoup, qui est parfois mis dans des situations très très drôles. C'est totalement hors de propos. Rapport à une piscine gonflable, vous verrez si vous lisez le comics. C'était une private joke. Et enfin, Quantum and Woody, The Goat 0. On aura un numéro origine. Secret Origin sur la chèvre des couvertures de Quantum and Woody. Voilà.
Enfin.
Et ça, je pense que c'était le truc à peu près nécessaire, avec une superbe couverture, voilà.
Que tout le monde attendait, quoi. C'est le numéro de la consécration. La chèvre, ça va devenir leur Wolverine. Hein.
Non, mais la chèvre de Quantum and Woody, c'est le Poyo de Chou, quoi. Vraiment.
Ouais, c'est ça.
Qui sert à rien. Pas forcément, en tout cas, qui n'est pas le personnage principal, mais que tous les gens attendent de voir avec impatience.
C'est génial, cette chef qu'on a vue depuis la couverture du numéro 1, qui était géniale.
Et que les fans ont tellement ragé de ne pas voir dans l'épisode.
On verra enfin, voilà, ses origines, Secret Origin.
J'attends l'ongoing chez Valiant, Chavroux.
Putain.
L'ongoing pour la chèvre, certainement, ouais. Donc voilà, Valiant qui fait son petit bonhomme de chemin et qui se fait plaisir, donc c'est toujours très bien.
Qui se lâche de plus en plus d'ailleurs, hein, puisque j'ai relu les premiers épisodes des diverses séries qui sont sorties en français, là, Bloodshot, Harbinger, etc. Et c'est vrai qu'avant c'était beaucoup plus,
ils ont relancé un peu de façon sérieuse, effectivement.
Voilà.
Tu relances pas une boîte en faisant n'importe quoi, mais
voilà,
maintenant que ça marche, ils peuvent se permettre des petites fantaisies.
Totalement. Bah là, il y en a de plus en plus, entre les couvertures en 8 bits et puis le reste. Non, non, franchement, c'est vraiment la petite boîte qui essaye de faire des choses et ça fonctionne. Il y a un public, tant mieux. Moi, j'espère qu'ils seront là encore dans 10 ans.
Ouais, rappelons que la chèvre de Quantum et Woody a quand même un nom, déjà. Elle s'appelle Vincent Van Gogh. Voilà.
Qu'est-ce que c'est con. En même temps, c'est pour ça qu'on les aime bien.
Mais, enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on a déjà eu des numéros zéro de Valiant qui ont déjà fait des numéros origines comme ça, mais même pour les séries qui ont débarqué plus tard, ils continuent de faire des numéros zéro, donc ils gardent ce même principe et ça c'est intéressant. Je trouve ça sympa de continuer à nous faire des numéros zéro qui arrivent un petit peu n'importe quand dans la série, mais voilà, chaque série aura son numéro zéro qui n'est pas forcément à lire au début, mais qui peut permettre de faire un gros point d'entrée pour la série.
J'espère qu'on aura vraiment, mais vraiment tout ça en français et qu'on va pas louper des choses du coup.
Bah si ça marche.
Oui, si bah, j'espère. Franchement, avec j'avoue la bibliothèque en plus qu'on avait fait, j'espère que les gens se sont un petit peu intéressés à Valiant, quoi.
J'avoue que le numéro de la chèvre, là, il m'intéresse grandement, quoi. Parce que c'est tellement barré que... Puis Vincent Van Gogh, ça, c'est le genre de truc qui me fait marrer.
On va continuer sur l'indé avec un projet Dynamite, une arrivée au mois de décembre. C'est JMS, qui décidément est très prolifique en ce moment, qui va prendre la série de Twilight Zone. Alors un retour pour ce scénariste, puisqu'il avait déjà participé au relaunch de la franchise dans les années 80. J. Michael Straczynski va écrire de Twilight Zone pour Dynamite. Marrant de voir que du coup on relance même des séries qui sont dans la tête des gens depuis des années. Hein. Rappelons que ça date des années 50 de Twilight Zone. Et voilà, on relance comme ça des petits projets.
Bah ouais, puis en plus pour JMS, ça lui correspond bien.
Ouais, ça met le spotlight sur une série que enfin je serais pas du tout allé voir, et évidemment quand il y a le nom de JMS collé dessus, ça me donne un peu plus envie. En plus il connaît son sujet.
Oui, voilà. Puis décidément Dynamite continue dans la franchise hein, la franchise plutôt années 80 notamment puisque Bionic Woman et Bionic Man entre autres. Ben voilà, il continue d'utiliser les franchises et gros nom. Au niveau de l'artiste, on aura Jiu, je sais pas comment le prononcer, Villanova, et des covers de Francesco Francavilla.
D'accord.
Donc ça débarque en décembre. Chez Boom, maintenant, Boom ont récupéré la licence de Robocop. On en a déjà parlé avec notamment l'arrivée de Robocop Last Stand, qui est le script original de Frank Miller pour Robocop 3, avant qu'il soit saboté, comme on a pu le voir à l'écran. Eh bien, Boom va continuer de faire marcher la franchise Robocop, puisque je vous rappelle qu'en février débarque le nouveau film, le reboot, relaunch, je ne sais pas trop comment l'appeler, de la franchise, le remake. Eh bien, 4 one-shots qui auront un lien avec le film vont sortir en février. Nous aurons Robocop Beta, scénarisé par Ed Brisson, Robocop Memento Mori, scénarisé par Frank G. Barbieri, Robocop to Live and Die in Detroit par Joe Harris, et enfin Robocop Hominem Ex Machina par Michael Moretti. Oh,
putain, comment ils se sont lâchés sur les titres, mais comme des porcs, quoi. C'est la fête du slip des titres. Ça donne pas du tout envie, dis donc, parce que déjà tout ce qui est tie-in au film, ça me.
Alors, ça sera pas tie-in au film, ça explore l'univers du film.
Oui.
Voilà
bah,
comment on nous l'annonce. Hein.
J'aurais espéré justement qu'ils fassent des trucs un petit peu, si tu veux. Ancré dans l'univers sans trop vraiment toucher au film et voilà parce que bon déjà le film j'en ai très peur, alors est-ce que j'irai jusqu'à lire ces one shot, franchement il y a peu de chance.
Flo,
il y a peu de chances que j'aille voir parce que ça m'intéresse pas du tout. Par contre, juste à noter, bon, il y a Frank Barbieri en nom connu, Ed Brisson, Joe Harris qui sera avec Piotr Kowalski, donc un dessinateur qui a plutôt le vent en poupe et qui que je n'aurais pas vu ici. Rappelons qu'il dessine Sex en ce moment, de Joe Casey. Voilà.
Pareil c'est que cool. Flo, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse.
Oui, mais toi, t'as même pas vu les Robocop, alors.
Si, monsieur, je les ai vus.
Ah, enfin, tu les as vus depuis?
J'ai juste vu le premier, parce que comme j'ai vu...
Je les ai vus, j'ai juste vu le premier. Eh ben, bravo.
Oui, non. J'ai juste vu le premier, parce qu'il paraît que les suivants sont pas terribles.
Le 2 tu peux quand même l'essayer.
Le 2 tu peux le voir. Le 3, bon oui, effectivement, fortement déconseillé, mais le 2 quand même est pas si mal que ça.
Okay. Mais
bon, le premier est un véritable monument, un véritable chef-d'œuvre.
Alors t'as aimé?
Oui, j'ai bien aimé.
Et bah fallait le dire dans le WhatsApp. Oh putain, mais Rami. Oh,
Ouais, mais pour moi, je suis plus un fan de Doctor Who que de Robocop.
Voilà. Oui, mais faut tout dire dans le WhatsApp, c'est le moment où on te fait parler. Bref.
Allez, on va terminer avec une petite news qui met le sourire et qui est très mignonne. Valentin, Chicago s'est transformé en Gotham.
Tout à fait. C'est,
non, pas Chicago, c'est San Francisco, pardon.
Oui, San Francisco, exact. C'est l'association Make-A-Wish qui exauce les souhaits d'enfants malades aux États-Unis, qui a transformé donc San Francisco en Gotham pour quelques heures pour Miles Scott, un enfant qui est atteint de leucémie. Et du coup, il a pu arrêter des méchants, le Joker, le Pingouin avec un Batman qui l'a conduit en Lamborghini, redécoré avec le symbole de Batman pour l'occasion. Et donc, il y a le maire de San Francisco, les policiers, enfin, tout le monde a essayé de faire vivre son rêve à cet enfant.
7000 personnes apparemment se sont déplacées quand même pour essayer de faire en sorte que ce petit gamin exauce son rêve, qui, rappelons-le, a 5 ans en plus.
Et donc, à savoir que le San Francisco Chronicle s'est renommé pour l'opération le Gotham City Chronicle, et en titrant Bad Kid Save City. Et donc voilà, et il y a eu aussi un tweet du président Obama pour dire au Bad Kid de sauver Gotham. Donc c'est une chose qui met du baume au cœur, et plutôt que de parler de la tuerie et tout ça, c'est un truc qui me redonne le sourire, et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué cette semaine.
Que même Obama lui enregistre un petit message, je trouve ça super mignon, quoi. Alors, c'est un message qui dure 3 secondes, quoi. Il lui dit bravo, mais enfin voilà, que tout le monde se soit
mobilisé
comme ça.
Bravo d'avoir arrêté le Joker.
Que tout le monde se soit mobilisé comme ça pour faire vivre ce rêve à son gamin. Bon, allez, on va être méchant quand même. Est-ce que franchement ça valait le coup de lui faire son rêve? Il est en rémission.
C'est pas bien.
Je suis un salaud.
Je me disais, on va être vraiment gentil durant tout le truc.
Non, je trouve ça adorable.
Possible, c'était pas possible. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est une belle histoire. On pourrait limite faire une histoire de comics inspirée de ça, quoi. Tellement c'est.
Mais il y avait aussi l'histoire du gamin où un personnage de comics a été créé, le Blue Ear. Pour que cet enfant accepte de mettre une prothèse auditive. Et donc ce genre d'histoire, moi ça me fait toujours plaisir, parce que ça montre que le comics peut faire plaisir aux enfants et leur permettre de réaliser leurs rêves. Donc c'est vraiment
l'association Make-A-Wish a quand même un énorme poids aux États-Unis. Chose aussi très intéressante, le chef de la police de la ville a précisé au Washington Post que l'opération n'avait rien coûté à la ville du tout, simplement un peu de temps des gens qui ont bien voulu participer.
Ils ont précisé surtout qu'ils avaient vraiment arrêté le Joker.
Oui, rappelons-le, hein, il avait été arrêté en DUI il y a de ça 2-3 semaines.
En tout cas, c'est clair que Make-A-Wish fait clairement plus de choses que Star à domicile, cette émission où Star venait chez toi.
Non, mais on va passer à la suite, peut-être.
Ouais. À notre époque, il y avait Fan 2.
Maintenant, il y a Patrick Bruel qui vient chez toi, si t'es malade en France.
Passons au Comics-Com de la semaine. Un mail de Steph Corbeny.
Oui, alors, bonjour à toute l'équipe, je suis auditeur des podcasts de Comic City depuis Ragnarok, je voulais dire depuis le numéro 16 et l'arrivée de Bunny. Je suis un lecteur librairie, car pour moi, il est difficile de suivre des séries qui sont conçues quasiment toutes pour le format TPB. Je souhaitais simplement, par ce mail, vous remercier tous pour le travail et la qualité de vos émissions. Je ne m'entendrai pas sur les blagues et autres jeux de mots, car je ne souhaite vous attribuer que des louanges et ne pas céder à la critique facile. Je ne m'étendrai pas, d'ailleurs.
Ils sont très bons, nos jeux de mots. La preuve avec cette émission, encore une fois.
Oui, on l'a bien prouvé. Et je tenais aussi à vous féliciter pour le GBA 2013 bien mérité, qui récompense tout le travail abattu par Steve, qui fait la joie de nos tympans chaque semaine et de la qualité des reviews et articles du site. Mais avec cette récompense vient une question que tout auditeur se pose.
Je me permets juste de te couper une petite seconde. Oui, ça me récompense moi, mais ça récompense aussi tous les gens qui travaillent pour le Comic City et qui m'aident chaque semaine à produire toutes ces émissions, parce que sans eux, l'émission n'aurait absolument aucune qualité.
Ouais, bon, il dit ça, mais en off, c'est pas ce qu'il dit. Hein.
Oui, en plus, pas, c'est hein. vrai. Je me suis dit, vraiment, mais quel tortionnaire, en fait. Non, bon, alors, la suite. Aura-t-on droit à une photo de Steve en peignoir rose tenant fièrement son trophée à la main? Oui. Je parle bien du trophée des GPA, pas de méprise, s'il vous plaît.
Oh, mince.
Longue vie à Comic City à toute l'équipe, Steph Core. PS, j'ai failli oublier, bien sûr, et comme de tradition, je ne suis pas d'accord avec Sam.
Et ben voilà,
oh,
c'est
mais
dit.
C'est de la merde.
Oh, trop fou. Hein.
Alors, une photo en peignoir rose, le trophée à la main, oh, pourquoi pas, je ne sais pas. Qui sait, peut-être à l'occasion d'un événement spécial que l'on prépare en décembre, qui aurait... qui revient chaque année, qui aurait pour tradition cette fois-ci de fêter les 5 ans du site, je ne sais pas, peut-être.
Franchement, Quesada a du souci à se faire niveau teasing.
Ouais, j'ai appris des meilleurs de Quesada et Kevin Feige. Ouais. Enfin, Kevin Feige, pardon. Bref, non, mais je sais pas, peut-être, pourquoi pas, si les gens sont gentils, si les gens le demandent, si les gens envoient des chèques.
Il y a toujours de l'attention.
Et bien sûr, Steve, tu le fais comme les Écossais, hein. Tu mets rien sous ton peignoir rose.
Ah bah sinon c'est pas drôle.
C'est pas drôle.
C'est pas drôle. Puis je dirais, oh mince, la ceinture a glissé, ça s'est ouvert.
Achète-toi une webcam.
Ah mince, je me suis assis sur le trophée.
HD quand même, pour qu'on voit bien.
Moi je demande une webcam pourrie. Pour que tout le monde s'imagine. Bon, de toute façon, même avec une webcam pourrie, vous le verrez forcément. Voilà, ça c'est fait, vous voyez, bon allez, hop, les vannes sur la taille du sexe. Passons au bref Twitter, très vite, énormément de félicitations pour les GBA, et nous tenons à vraiment vous remercier, ça me fait vraiment très plaisir que vous ayez été autant à nous féliciter pour la récompense de ce trophée. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir que vous nous suivez à ce point, et voilà, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup.
Tout à fait.
Et il n'y a pas de lien avec ce que je disais juste avant. Hein.
Ouais.
Et enfin, des petites questions, notamment pas mal qui reviennent sur qui, si il y aura des membres présents à la PCE, qui y sera ce week-end. Hein, je rappelle que c'est la PCE, la Paris Comics Expo.
Oui, alors on sera, il y aura pas mal de membres de l'équipe qui passeront, qui seront peut-être pas là les deux jours. Il y aura Mister Honey Bunny qui sera là. J'y serai. Valentin, il sera également. Nono, il sera. Corwin, il sera. Bruno, évidemment, il sera avec Night Runner. Voilà, à des horaires, on ne sait pas encore trop si on y sera les deux jours. Certains y seront que le samedi. Pour nous retrouver, ça va être un peu compliqué. On a pensé à faire des t-shirts, mais c'était trop tard. Comme je dis, Bruno viendra certainement avec son t-shirt Superboy, le fameux t-shirt noir avec le logo rouge. Donc si vous voyez un t-shirt Superboy, c'est certainement Bruno. Et on sera dans les parages.
Et moi, je serai en Doctor Who. Donc si vous voyez quelqu'un en Doctor Who avec un costume noir et une cravate violette...
Avec 850, mais...
avec 5 personnes en train de le lyncher, c'est que c'est l'équipe de Comic City qui se met de... Voilà, c'est ça.
Voilà.
À peu près.
Tout à fait.
Voilà. Vous le retrouverez.
Sinon, l'autre moyen, facile, écoutez les gens parler, si vous reconnaissez les voix.
Oui.
Non, mais ça m'est déjà très souvent arrivé, en fait, ça.
Et si on est en mute, si on est en mute durant tout le temps du salon... Putain. Moi, je m'exprimerai que par SMS, au fait.
René Bunny, il a coupé son micro à la PCE. Non, donc, pour nous retrouver, voilà, ça va être un peu compliqué. Voilà. On dira, on tweetera, certainement, sur le compte officiel de Comic City, at Comic City, ou sur certains.
Si on a du
comptes,
réseau, hein, puisque je
sur
me souviens
certains
un peu là.
De nos comptes perso, où on est, voilà, si on est à des endroits précis,
il y aura des
si vous voulez nous retrouver.
Pour rencontrer l'équipe, rendez-vous tous dans 5 minutes devant tel endroit.
Ah oui, puis on les emmène dans un endroit totalement improbable. Qui n'est pas du tout là où on est.
On sera peut-être le samedi soir à un endroit fixe pour boire des coups, mais
Fucking
on ne sait
Blue
pas
Boy,
trop. Donc voilà, voilà,
et,
voilà tout.
Et peut-être mais... pour regarder l'épisode d'anniversaire de Doctor Who, peut-être.
Peut-être.
Oh, tu nous fais
pas,
chier avec ton
Doctor Who. Comment ça va se passer.
Hop.
Mais voilà, allez à la PCE, c'est bien. Samedi et dimanche, cette semaine, il y aura plein de conférences, plein de très bons artistes. C'est 10€ la journée ou 19€ les deux jours. Voilà. Allez-y, c'est l'événement parisien comics à pas louper.
Clairement.
Oh, j'aurais même enlevé le parisien, l'événement comics à ne pas louper tout court en fait.
Ouais, même à pas louper. Oui, mais voilà, c'est purement comics et c'est très très bien. Il y aura de très bonnes conférences, je pense, avec Jean-Marc Lenné, avec Kachou, etc. Donc ça sera très bien.
Donc à ne pas louper, mais moi je n'y vais pas. Hein. Clairement, c'est indigne de moi. Maintenant j'ai un GBA, je ne me déplace plus. Faut pas déconner, hein.
Bah, tu sais, il y en a bien qui ont un site professionnel et qui n'ont pas de stand maintenant.
Non, malheureusement, c'est simplement une histoire de planning et de travail qui fait que je ne peux pas m'y rendre. Alors que vraiment, c'est une convention à laquelle j'aurais vraiment voulu participer. Malheureusement, mes horaires font que ce n'est pas possible. J'espère pouvoir être là l'année prochaine.
Ouais, puis bon, faut être honnête. Enfin, moi, c'est simple. Je suis étant à Paris, forcément, je suis intéressé par y aller. Et puis j'y vais, ça va pas me coûter grand chose. Après, pour quelqu'un qui habite plus loin, c'est sûr que c'est un plus gros sacrifice et que c'est plus compliqué.
Ah bah de toute façon, j'ai fait le calcul. Je passerai à peine 27 heures sur Paris le week-end. C'est difficile, quoi.
Ouais.
Difficile.
Puis ça coûterait cher pour ça, quoi. Franchement, je comprends que voilà, quoi. Après, il y a ça aussi qui joue.
Mais après, les gens, enfin ceux qui écoutent, s'ils peuvent se manifester en commentaire pour savoir qui sera là.
En commentaire, sur Twitter, enfin vous avez tous les moyens de nous retrouver, puisque comme chaque semaine, je vais vous faire le petit rappel, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez nous laisser des commentaires sur l'article et sur le site, bien évidemment. N'hésitez pas à vous manifester concernant la PCE.
Au fait, c'est simple, à la PCE, si vous allez à la PCE et vous êtes auditeur, mettez des oreilles de lapin et vous aurez un joli no prize. Puisque je ne compte rien vous filer, mais au moins on vous repérera facilement. Voilà, avec des oreilles de lapin par exemple.
Vous pouvez aussi bien sûr retrouver tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes, bien évidemment. Et puis nous envoyer des mails, comme l'a fait Steph Core cette semaine, à l'adresse podcast@comiccity.fr. D'ici la semaine prochaine, comme d'habitude, portez-vous bien. On se retrouve samedi matin pour le Comics Weekly avec vos comics VO, les nouveaux comics de la semaine. Et cette semaine, jeudi, vous retrouverez aussi le Comic City, le mensuel sur les parutions VF. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Messieurs, merci.
Merci à toi.
Bah, merci à toi.
On se dit à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.
À bientôt.
Bye les gens.
Ciao, ciao. Just for the time.